Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yeah. Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls, bienvenue dans le podcast. Et bienvenue pour ce dernier épisode hors série de la saison. Bon, je pense que maintenant vous le savez, chaque semaine j'invite normalement une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash, sauf que sur ce format hors série, j'en reçois deux. Comme vous le voyez, les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Ce soir, nous allons parler de notre avenir et de celui de notre planète. C'est un sujet, je pense que c'est important qu'on en parle. La situation s'aggrave de jour en jour. Et alors que certains débattent encore de la réalité du réchauffement climatique, d'autres font des projections alarmantes pour les années à venir. Conséquence, une partie de la population souffre d'éco-anxiété. Un sentiment de fatalité fait de peur, de tristesse et de colère face à ce futur incertain. Tandis qu'une autre partie, consciente de ce qui se joue, a du mal à s'impliquer. Modifier ses habitudes alimentaires, vestimentaires, faire attention à son empreinte carbone. Une population qui certes s'inquiète, mais se dit à quoi bon face à l'ampleur de la tâche. Eh bien, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et pour en discuter avec moi ce soir, je reçois Jeanne et Arthur. Salut.
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 Merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être ici, vraiment. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que vous faites dans la vie et qui vous êtes ?
Donc moi, c'est Jeanne, j'ai 25 ans et je suis business développeuse dans une start-up de vitressing de prêt-à-porter, donc seconde main. Et c'est principalement des vêtements premium et luxe. Donc voilà, moi, je m'occupe de la partie, donc tout ce qui va être trouver des apporteurs d'affaires, développer de business, comme mon nom, enfin, le nom du poste l'indique, avec des partenariats influenceurs, ce qu'on appelle des VIP, des acteurs, des choses comme ça. Donc voilà.
Ok, trop bien. Et toi ?
Moi, je dirais que je suis un humain optimiste, fan de nature, de sport et d'entrepreneuriat, ce qui m'a amené à cofonder aujourd'hui Time for the Planet, qui est un grand mouvement citoyen pour mettre un petit coup de tatane aux gaz à effet de serre collectivement et essayer justement de nous permettre de sortir un peu de ce sentiment d'impuissance face au dérèglement climatique, de donner des leviers d'action pour que chacun puisse aller plus loin et démultiplier son rayon d'action concrètement, mais on en parlera peut-être.
Oui, tout à fait. Alors, dans la tradition de ce podcast, afin de mieux vous connaître, ce sont quatre petites questions que je pose à tous mes invités. On va commencer par toi, Arthur, si tu devais décrire ta personnalité en trois mots.
Curieux, enthousiaste et gentil.
Ok. Et toi ?
Bah, je vais copier. Je suis curieuse, généreuse aussi,
ouais.
Et sociable.
D'accord. C'est bien que vous êtes rapide, hein, parce qu'il y en a qui galèrent à trouver des mots ou des voilà.
Si on n'a pas dit
espiègle,
radin, les mecs sont au direct, tranquille.
C'est vrai. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement.
C'est long,
comme un mot, ça, hein.
Mais c'est joli.
C'est un mot un peu composé.
Tu peux le redire ?
Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement. C'est pas du tout de moi, hein, je tiens à le dire.
C'est de qui ?
On sait rien, je sais plus.
Je sais pas, mais j'ai entendu ça à un moment.
Google est votre ami.
Ok, très bien. Et toi ?
Moi, c'est pas vraiment un mot, mais c'est plus une expression. Je le dis tout le temps, mais non.
Mais non.
Mais non.
Genre, mais non.
Voilà, mais non.
Ah, plutôt
mais,
genre.
Mais pour pas mal de choses, en vrai. Je suis un peu étonnée de tout.
Ok.
Mais non.
D'accord. Alors, l'endroit où tu te sens le mieux ?
Dans les montagnes. Et principalement dans les Alpes.
Ok. Voilà.
Avec un petit chalet, un lac, la forêt derrière et des sommets où je peux aller courir avec un chien.
Ok.
C'est vachement bien de courir avec un chien.
J'imagine, ça dépend quel chien.
Ça dépend, ouais. Il y a des chiens.
Avec mon chien, qui est un carlin et qui a 9 ans, oh qui ouais. Est un peu en embonpoint.
J'ai pas dit faire de la marche.
La marche lente.
Ouais, c'est clair.
Ok, très bien. Et toi ?
Moi, je dirais dans mon bain. J'adore prendre des bains. Et principalement avec mon chien à côté, j'aime bien.
Est-ce que tu prends des bains avec ton chien dans
non,
le bain ?
Non, faut pas abuser.
Non, jamais ?
Non.
Ok.
Est-ce que le chien prend des bains sans toi, des fois ?
Oui.
Ah, le salaud.
Que tu laves toi ?
Oui, je le lave.
Ok.
Quand même.
Qu'est-ce que tes proches disent de toi ?
Qui comprennent pas ce que je fais dans la vie.
C'est vrai ?
Ouais.
La plupart de tes potes ou de tes proches, ils savent pas ce que tu fais ou ils comprennent pas ou...
Ouais, ils ont toujours eu pas mal de mal à me suivre dans l'entrepreneuriat de manière générale. Ça fait 10 ans que j'ai commencé et on m'a souvent dit « quand est-ce que tu fais un vrai métier ?» Non, sinon après, ils ont l'air d'être confiants, hein, tu vois, oui. Ils sont pas inquiets, c'est juste qu'ils se disent qu'est-ce que fout ce Tom, quoi, voilà.
Ouais, mais ils sont plutôt dans un truc de t'es en train de te planter ou
Non, je pense qu'ils sont très bienveillants, mais simplement ils ont un peu du mal à suivre ce que je fous dans ma vie, quoi.
Ok.
Voilà.
Ça te dérange ou pas ?
Non, j'aime beaucoup.
Ouais.
Ouais, ça évite plein de discussions.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Et toi ?
Et moi, que je suis quelqu'un de dépensière, je suis aussi quelqu'un qui est très à l'écoute de mes amis. Enfin, en général, je suis toujours là pour donner des conseils, voilà, aider en général.
Être présente.
Voilà, c'est ça.
Ok, très bien. Podcast. Je vous propose d'entamer justement ce live avec cette première question. Sur une échelle de l'éco-anxiété allant de 0 à 10, à quel niveau vous vous situez ?
Pas très haut, malheureusement. Ouais.
Mais non,
sur une échelle de 1 à 10.
Juste, je me permets de dire qu'il n'y a pas de jugement ce soir, hein, qu'on peut parler très librement. Tu peux dire tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, les questionnements que tu te poses, enfin les questions que tu te poses, et moi aussi, et nous tous. Donc voilà, tu peux vraiment parler très librement.
Je suis consciente, mais je dirais que c'est sur à 10. Hein.
Ouais.
Je dirais que je suis à 4.
Que tu es à 4.
Ouais.
Ok. Moi, je crois que je suis à 6,5-7.
Pas mal, beau score.
Ouais, plus 6,5, je pense. Et toi ?
Eh bien, moi, en toute honnêteté, je pense que je suis à 1.
Mais non !
Si.
Je pensais que tu allais me dire genre 9 sur 10.
Ouais, mais en fait, non, parce que quand tu es dans l'action, quand tu vois les choses qui évoluent, quand tu as fait le travail de te projeter dans un futur potentiel positif, t'as plus du tout ça. Et puis moi, je crois que c'est pas très stratégique d'être dans une projection fataliste ou tu vois, je crois que malheureusement, ça nous. Déjà, c'est auto-prophétique. Donc, quand tu commences à imaginer que ça va être Mad Max, souvent tu vas vers Mad Max. Donc, c'est doublement pas stratégique parce que tu souffres. Et en plus, tu risques de provoquer ça. Mmh. Et en plus, moi, si je devais faire une analogie, c'est un peu comme si tu allais jouer une Coupe du Monde de rugby, voilà, je sais pas. Mmh. Et que tu étais tout seul dans le vestiaire et que tu disais, ça va être vraiment dur. Hein. Bon, et je me coupe un bras en plus. Et tu vois, ouais. Du coup, j'ai pas ce truc-là parce que. Je pense que déjà, être dans l'action, ça soigne beaucoup le truc. Mm. Je l'ai eu plus. Quand j'ai vraiment pris conscience du truc, je l'ai eu plus. J'ai peut-être été jusqu'à 5-6, tu vois.
Ah ouais. Et avant de prendre conscience, est-ce que t'étais genre à 9 ou t'as jamais été dans un niveau de « là, je suis dans une angoisse totale, je comprends pas ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre, de m'informer » ou alors ça, t'as toujours été un petit peu... Enfin, est-ce que t'as toujours été optimiste dans la vie, du coup ?
Ouais, j'ai une ADN très optimiste. Du coup, j'ai jamais été à 9. Et je pense que j'ai aussi eu la chance de souvent prendre du recul. Alors là, c'est direct mystique, hein, mais tu sais, sur la vie, la mort. En fait, bon, c'est, la planète, elle est là pour 5 milliards d'années. Si les humains, ils n'arrivent pas à s'autogérer et à être assez intelligents pour faire perdurer leur espèce, eh ben tant pis, en fait, pour nous, tu vois. Bien sûr, c'est pas ce que je nous souhaite, parce qu'à l'heure actuelle, je fais tout et je mets toute ma vie dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mmh. Mais je veux dire, je vais pas me flageller au-delà de ça. Enfin, là, on est vivant. Ces secondes, elles sont là, elles existent, elles sont très sympathiques. Bah, profitons-en, parce que si c'est se pourrir le présent dans l'espoir qu'un hypothétique futur soit meilleur, je le vois pas de manière hyper stratégique, tu vois. Je me dis, autant qu'on soit bien et qu'on fasse de notre maximum, de notre mieux, sans pour autant se mettre dans des situations où... Parce que ça annihile en plus l'action quand t'es pas bien.
C'est vrai, c'est très juste. Mais c'est malin de penser comme ça parce que du coup, tu vois toujours le verre à moitié...
Plein.
Plein.
Oui.
Plutôt que de le voir
à moitié vert.
Et de te dire, bon, c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si je fais ça, mais ça va servir à rien. Alors que t'es toujours... Enfin, j'ai l'impression que de ce que tu dis, t'es vraiment dans un truc de... Tiens, on va mettre ça en place, on va faire ça, etc. Pour voir, pour faire en sorte que le monde aille mieux, quoi.
Ouais, moi j'ai envie juste de m'aligner avec ce que je sais du monde, tu vois, de me sentir cohérent.
Ouais.
Et déjà, c'est un bon début, quoi.
Ouais, ouais.
Déjà, quand tu prends ta place et que tu sens que c'est la place à laquelle tu dois être et que tu vois pas d'autre place, tu te dis, bah en fait, si ça fail, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais.
Ouais, enfin, j'ai pu, quoi.
Et donc, je vais pas en plus me flageller si ça marche pas parce que démocratiquement, on n'a pas pris les bonnes directions, les bonnes décisions, quoi.
Ouais, c'est intéressant de penser comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que c'est justement Time for the Planet ?
Avec plaisir.
Et ben, le cofondateur de ça.
Ouais, en fait, ça part d'un constat hyper simple, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es un citoyen lambda, c'est-à-dire que tu n'es pas président de la République ou milliardaire, et que tu commences à réaliser l'ampleur de l'urgence climatique, eh ben, tu as un peu l'impression d'être en slip à main nue contre Godzilla, quoi. Tu te dis, mais ouais. Qu'est-ce que je fais contre ça, moi ? Tu es totalement dans un sentiment d'impuissance qui est très inconfortables. Et nous, on a vécu ce sentiment d'impuissance et on s'est dit, ben, en tant que bons entrepreneurs, parce qu'on avait tous monté des boîtes avec mes cofondateurs, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle et avec ce qu'on maîtrise un peu? Et comment on peut permettre à d'autres gens qui souffrent de ce même sentiment d'impuissance d'avoir plus d'impact? Et donc, le premier truc qu'on a fait, c'est évidemment qu'on s'est dit, ben, on va utiliser le levier de l'entrepreneuriat parce qu'on l'avait vu, ça transforme le monde à très grande échelle. Les entreprises transforment nos modes de vie. Hein. C'est clairement le truc le plus puissant pour le faire. Et ça tombe bien, c'est précisément le sujet de la transition. Et on est allé voir des scientifiques, et notamment Jean Jouzel, qui est l'ex-vice-président du GIEC. C'est compliqué à dire, mais c'est juste un mec très stylé qui a notamment trouvé le lien entre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. C'est ce monsieur qui a trouvé ça. Et on lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-nous, s'il te plaît. On a compris le problème, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et il nous a dit, bah, en fait, c'est très simple. Il y a deux leviers et on les connaît. Le premier, c'est la sobriété, parce qu'il faut qu'on réduise notre consommation.
La décroissance, enfin, être dans un truc un petit peu...
Il ne faut pas faire l'amalgame, mais c'est plutôt le fait de dire, j'ai pas envie d'être un humain, simple agent économique qui est sur cette terre juste pour produire et consommer toujours plus, au service de quoi, en fait, tu vois? C'est plus... Je vais me concentrer sur ce dont j'ai réellement besoin, parce qu'en fait, il y a plein de trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Et le deuxième levier, c'est l'innovation. Pas l'innovation pour aller faire de l'astéroïde mining et faire du toujours plus, l'innovation dans le sens faire autrement. Et là où Time for the Planet a commencé, c'est que toutes les innovations dont on a besoin pour décarboner structurellement l'économie, l'industrie, des trucs qu'on ne peut pas faire avec nos petits gestes du quotidien, elles existent déjà. Ça, c'est les scientifiques qui nous l'ont dit au début de l'aventure. Ils nous ont dit, elles sont toutes là. C'est pas la peine d'attendre que des nouvelles innovations incroyables arrivent. Elles sont là. Le sujet, c'est qu'elles ne changent pas d'échelle parce qu'elles sont portées par des innovateurs, donc des chercheurs, des ingénieurs, des scientifiques. Et ces gens-là, c'est pas des entrepreneurs. Donc, trouver un modèle économique viable, faire en sorte que l'innovation, elle devienne une entreprise, qu'elle se déploie à très grande échelle, c'est pas leur métier. Ils savent pas faire, ils ont pas envie de faire ça. Et nous, on s'est dit, donc c'est ça qui fait que ces innovations de ouf, dont tout le monde a besoin, elles sont toujours pas mondialisées. Ils nous ont dit, ben ouais. Et on s'est dit, mais c'est complètement fou. On connaît plein d'entrepreneurs hyper bons qui, justement, savent parfaitement faire ça et qui cherchent comment donner du sens à leurs compétences entrepreneuriales. Et du coup, on s'est dit, faisons le Tinder du climat. Allons matcher d'un côté ces innovations à impact avec de l'autre des entrepreneurs chevronnés et faisons-le tous ensemble avec toutes les personnes qui se disent bah moi je fais déjà des petits gestes, je fais déjà un peu des trucs, mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de participer à la décarbonation plus structurelle, donc je vais contribuer à Time for the Planet, devenir associé, donc tout le monde peut devenir associé du mouvement Time for the Planet et nous aider à faire émerger ces innovations qu'on met en open source. Et tout le modèle est pensé pour que les gens viennent non pas chercher de la rentabilité financière, gagner de l'argent, mais des dividendes climat, c'est-à-dire les tonnes de gaz à effet de serre qu'ils ont permis d'empêcher, en fait, grâce à leur argent, grâce à leur implication dans Time.
T'as compris?
Pas du tout.
Ok. Est-ce que je peux...
Si, un petit peu. Alors, quand même, mais...
Je peux le faire en une version.
Attends, je vais essayer de l'expliquer, tu me dis si je veux. En gros, il y a plein d'innovations pour faire en sorte que le réchauffement climatique ait moins d'impact sur la Terre. C'est peut-être très mal dit.
On switch le modèle pour décarboner l'économie et de manière générale, qu'il y ait moins de réchauffement climatique.
En gros, il y a plein d'innovations, sauf que les gens qui innovent, donc des chercheurs, ils créent leurs innovations, ils sont contents, mais ils ne vont pas voir plus loin parce que ce n'est pas leur mindset. Ouais. Tu vois, ils sont juste dans un truc de « Oh, bah, j'ai créé cette tasse qui peut faire que... Bah, c'est super, maintenant je vais créer un nouveau truc. » Et qu'en gros, là, de ce que je comprends, c'est « Ok, donc en fait, il y a cette possibilité-là. Bah, viens, on met de l'argent et on s'investit tous, donc on peut devenir tous associés. » Pour faire en sorte que... Il y a besoin de combien? De 1 milliard, je crois que j'avais vu ça.
On lève 1 milliard en tout, mais tout le monde peut venir avec 1 euro. Vous n'êtes pas obligé de venir avec 1 milliard, les amis. Ouais.
Et une fois qu'il y a ce 1 milliard qui a été...
Pas besoin d'attendre qu'il soit là. On lance déjà des boîtes.
Ah,
au fur et à mesure. On en a déjà lancé 7.
Déjà. Ouais. Mais une fois qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu... On peut créer des entreprises pour faire en sorte que ces innovations sortent des laboratoires.
Exactement.
Et c'est ça.
Très bon pitch. C'est limpide.
Là, c'était clair.
Ok. Merci. Ça t'évoque quoi, justement, ça? Est-ce que c'est un truc où tu dis « Waouh, c'est si loin de moi » ou alors « Tiens, c'est marrant parce que j'ai déjà pensé, pas forcément à des innovations, hein, mais ça te fait penser à quoi ?» Ça te dit...
En vrai, c'est un petit peu loin de ma pensée. Et c'est pas bien, hein. Je sais, je suis consciente.
Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Ouais.
Oui, non, mais je sais que même... Enfin, je fais partie des gens et, qui se disent que... Si moi, toute seule, je fais quelque chose, est-ce que ça va avoir un impact? Je sais que toutes ces personnes-là, solitaires, si on faisait tous quelque chose, ça aurait forcément un impact.
Ouais.
Mais c'est difficile entre le dire de « peut-être que je peux le faire » et de vraiment le faire. Et ouais, j'ai du mal à...
L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt silencieuse qui pousse, dirait le sage.
Et moi, je dirais que je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a un truc pour moi, quand j'ai appris cette phrase, je crois que quand j'ai rencontré cet homme-là il y a des années, Et quand je l'ai entendu en conférence, j'ai fait, mais putain, mais c'est vrai. C'est un mec qui s'appelait Pierre Rabhi. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Le boss. Le boss final du jeu.
Tu vois qui c'est ?
J'ai pas du tout la ref.
C'est quoi, c'est un penseur, c'est...
De la Drôme. Bah, c'est un agriculteur.
C'est un agriculteur.
À la base, qui écrit des livres.
Ouais, qui a écrit beaucoup de bouquins et qui, qui était, j'allais dire, activiste à sa manière dans l'écologie. Et un jour, il a fait une comparaison, enfin, une genre de métaphore, une comparaison, je sais pas trop comment on peut appeler ça, où en gros, il voit que il y a le feu à une forêt et il y a un oiseau qui arrive, un petit colibri qui arrive. Et là, il prend le petit colibri, il prend un peu d'eau dans son bec pour le, tu vois, pour essayer d'éteindre le feu.
L'immense
incendie.
Et tous
ses autres copains, ils se disent, mais qu'est-ce que tu fous, en fait? Tu vas pas du tout éteindre le feu. Et le colibri, il a dit, oui, mais au moins, je fais ma part. Et en fait, je me suis dit, mais putain, en fait, c'est ça.
Ouais.
On fait tous notre part.
Totalement.
Sauf que c'est hyper difficile, je trouve, quand même, de faire sa part. Parce que je pense qu'inconsciemment, on se dit, c'est de la merde.
Ça
sert à rien. C'est pas nous. Nous, on est que des petits pions, tu sais. Puis c'est le gouvernement et c'est tout ça. Donc, je comprends bien ce que tu dis. Est-ce que, selon toi, comment on peut convaincre une entreprise, justement, de choisir la performance environnementale avant la performance économique?
En fait, en lui montrant que c'est enthousiasmant et que c'est une belle opportunité. C'est un peu comme si on était au début de la révolution d'Internet et que je te disais dans les années 90, fais un site e-commerce. Crois-moi, fais un site e-commerce.
Ouais.
Je pense qu'aujourd'hui, les gens diraient « Ouais, je vais faire un site e-commerce. Ouais. » Là, la révolution Internet, c'était une belle vague. Là, c'est un tsunami énorme. C'est le plus gros tsunami de l'histoire du monde. Il va tout transformer. Et donc, il y aura ceux qui vont être devant la vague et qui vont se péter le nez comme Brice de Nice et ceux qui vont surfer la vague. Dans quel camp est-ce qu'ils ont envie d'être, en fait? C'est vraiment la question. Et aujourd'hui, si je te dis, dans le modèle actuel, tu investis 1 euro pour potentiellement gagner 2 euros demain, ce qui est en gros une caricature de la performance économique, tu te dis, ben oui, ça a l'air intéressant. Mais si je te dis, tu investis 1 euro aujourd'hui pour ne pas avoir à investir 10 euros demain, en fait, c'est beaucoup plus rentable de faire ça. Ouais. Et ça, c'est la situation dans laquelle on est, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'inaction climatique est infiniment supérieur au coût de l'action. Donc, réorganiser maintenant notre société pour qu'elle soit efficace.
Je crois que t'es en train de la perdre.
Non, je suis.
Okay. Attention, ça va.
Non, pas loin.
Non, mais attends, c'est pas un sujet qui est évident.
C'est vrai que c'est dur de vulgariser. Donc, tout ça pour dire que ça coûte infiniment moins cher de transformer aujourd'hui une entreprise et de se dire, faut que je réagisse maintenant et que je me mette en phase avec ce qu'attendent les gens, que de dire, je ne me transforme pas, mais dans 10-20 ans, en fait, l'argent que je vais devoir sortir pour pouvoir reprendre le chemin, il va être tellement important que j'ai des chances de mourir, quoi. Et elles comprennent ça, les entreprises, maintenant. Doucement, mais sûrement.
Elles comprennent.
Maintenant, elles sont un peu engluées dans leur dynamique de base qui est née dans une autre époque et qui n'est pas évidente à changer parce qu'elles ont plein de règles, plein de trucs, quoi.
Ouais. Toi, tu es devenue business développeuse. Développeuse. Dans une boîte de seconde main, comment tu t'es retrouvée là?
Eh ben, un peu par hasard, et c'est tout récent, et c'est vrai que c'est le détail que j'ai peut-être un petit peu omis de dire tout à l'heure, en off, si on peut dire ça comme ça. Je suis encore en études, en fait.
Ok.
Je suis en master, enfin j'ai repris mes études, et je me suis retrouvée là un peu par hasard. J'étais plus partie pour trouver une alternance de base sur du merch.
Ok.
Et en fait, on est venu toquer à ma porte un jour, et je me suis dit, ok, pourquoi pas, ça me plaît bien.
On est venu vers toi.
Ouais.
Ouais.
La star.
Ouais, on est venu vers moi. Et donc, me voilà dans la boîte dans laquelle je suis depuis septembre.
Okay.
Donc, c'est tout frais.
Ok. Et justement, toi, tu nous expliquais un petit peu en off que tu travailles justement dans un site de seconde main, mais que t'es à fond. T'achètes de la fast fashion.
Ouais.
C'est ton paradoxe.
Ouais.
Est-ce que tu culpabilises de ça ou franchement, bof?
Bof.
Bof.
Enfin, un peu plus maintenant, surtout depuis que j'y suis, parce que je sais que ça a un impact énorme.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça m'empêche pas d'acheter, quoi.
C'est quoi ton rapport à l'écologie? Est-ce que c'est juste de la pensée? Est-ce que c'est pas de pensée? Est-ce que c'est des choses que tu mets en place, même si c'est juste trier tes déchets? Ou pas? Non, mais t'inquiète, il n'y a aucun jugement, hein, vraiment.
En vrai, je suis pas très sélectif. C'est pas bien. Mais ça m'arrive de le faire, mais en vrai, poubelle.
Ok.
Donc, je sais que le souci commence là. Après, mon rapport à l'écologie, c'est vrai que j'ai des pensées, en fait. Mais c'est vrai que ça ne m'empêche pas non plus de ne pas faire ma part des choses, en fait. J'ai un peu de mal.
Donc, tu te dis, parfois, il y a des moments de conscience où tu dis « Ah, putain, là, ce que je fais, c'est pas ouf. » Et puis, tu passes à autre chose.
Ouais, c'est ça. Comme un moi. Peu comme si je, ouais. je costais le truc.
Ouais. Déjà, c'est bien de le dire et de l'assumer parce que je pense que plein de gens se reconnaissent là-dedans et ouais. c'est cool, tu vois, ouais. De prendre le truc comme il est, de dire bah voilà, on en est là. Enfin, c'est chouette plutôt que de faker d'être écolo alors que tu vois, c'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est trop important qu'on sorte du délire de compter les bons points et d'être dans la pureté militante ouais. qui ne fait pas trop avancer. Donc, bien, aussi, on installe un bon contexte.
Ouais, et puis je trouve aussi. Il y a aussi un autre pan, c'est que quand on n'est pas du tout justement dans une démarche écologique, mais genre pas du tout, du tout, les gens peuvent être très culpabilisants aussi en genre ah putain, tu tries pas tes déchets, mmh. et même ça, tu fais pas ça quoi. Il y a un truc, tu vois, un sentiment de trait d'égoïsme très mmh. fort qui s'entend un petit peu, mais je trouve ça pas évident. Et je te remercie de l'assumer ce truc là parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast qui sont comme toi. Mais juste qui ont du mal à assumer ça. Parce que c'est, franchement, c'est pas facile, je trouve, en 2022, de se dire « En fait, j'achète de la fast fashion, et en fait, je fais ça. » Moi, mon rapport à l'écologie, il est très ambivalent. Il est très, très ambivalent. Moi, mon papa, il a été producteur dans la musique et dans la pub. Il a arrêté, et puis il s'est mis à fond dans l'écologie. Il a travaillé énormément avec Cyril Dion. Il a travaillé... Il est très impliqué là-dedans, émotionnellement et physiquement. Enfin, c'est vraiment un sujet qui l'importe beaucoup.
C'est drôle, c'est souvent les enfants qui font prendre conscience aux parents. Toi, c'est l'inverse, quoi.
Ouais.
Original. Ouais.
C'est l'inverse. Et d'ailleurs...
Gueup au papa, alors.
Hein ?
Gueup au papa.
Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que pendant un temps, il essayait, mais je pense que j'étais pas prête du tout, il essayait de faire un peu de l'appel du pied. Genre, mais ça, tu veux pas faire ça ? Je faisais, oh, vraiment, tu me fais chier, parce que j'étais pas du tout dans ces réflexions-là. Et en fait, là où je suis un peu dans un paradoxe, c'est que je suis au courant de plein de choses. Enfin, de plein de choses. Je suis au courant de certaines choses. Il y a des choses que je mets en place. Typiquement, la fast fashion, j'évite. Parfois, je le fais. Genre, j'ai jamais commandé sur Shein, par exemple, parce que là, je me suis dit, là, c'est vraiment ma limite. Mais en même temps, Shein ou Zara, c'est un peu la même chose. Mais j'évite.
C'est encore un autre level des portes de l'enfer, Shein.
Ouais. Non, mais tu vois, moi qui suis pas toute mince, c'est pas évident, tu vois, genre de la fripe, ça peut être galère et tout. Enfin bref, mais il y a des endroits où moi je commande vachement sur Amazon et je me déteste à chaque fois. Vraiment, je me dis mais
surtout quand t'as le Prime.
Ouais. Non, mais vraiment, je me déteste. Hein. Je me dis tout ça et on s'est dit avec mon mec il y a pas longtemps. On s'est dit en fait, on veut de l'efficacité, de la rapidité. Au lieu de descendre dans ton bricorama ou je ne sais quoi, tu sais, t'as ce truc d'avoir tout de suite. Et je trouve que ça a tué le game vraiment énormément. Donc à chaque fois, je m'en veux énormément. Je m'en veux de plein de trucs. Mais je vois que je ne fais pas grand-chose pour changer. Sauf que là, typiquement, on va déménager. On va partir donc vivre en Drôme. Et on a un composteur dans le jardin. Et genre, ça m'excite de ouf. C'est trop bizarre, tu vois.
Ah ouais, c'est bizarre, ouais.
Non, mais ça m'excite de ouf parce que je me dis, ah putain, je vais composter, je vais trier mes déchets, je vais machin et tout. Et ça me fait chier de penser comme ça. J'essaie d'acheter bio au maximum, j'essaie de... Mais tu vois, voilà, je trouve qu'il y a un vrai paradoxe qui se pose pour la majorité des gens. Il y a les gens qui sont battent un peu les couilles et il y en a d'autres qui sont effectivement, comme moi, dans un truc de « Ah, je suis au courant !» Mais je culpabilise de ouf, mais je fais pas grand chose. Je fais un peu, mais pas grand chose. Et voilà.
Tu te sens en dissonance?
Ah, je me sens dans l'ambivalence totale. Mmh. Et c'est très chiant parce que je vois qu'avec mon fils, je suis vachement écolo. C'est-à-dire que c'est bête de penser comme ça. Mais parce que je veux le mieux pour lui, mais je pourrais me dire la même chose pour moi. Hein. Mais c'est toujours plus difficile.
Un bon argument.
Mais j'essaye de lui acheter du coton bio, de lui faire à manger moi-même, de plus acheter de petits pots, ou alors quand c'est fait, que ce soit bio. Enfin voilà, tu vois, des trucs qui sont made in France, de maximiser ce genre de trucs-là. Et moi, parfois, je me dis, oh, pouf. C'est ça qui est chiant.
Plus facile avec les autres, je trouve.
Ouais, mais c'est dommage.
Ouais, non, mais c'est sûr.
Dommage. Mais même, d'ailleurs, nous, de faire un enfant, ça a été un vrai sujet pour ça.
Ah ouais.
Avec mon mec, on s'est dit, est-ce que c'est une bonne idée de lui laisser ce monde de merde ? Est-ce que c'est une bonne idée de peupler encore plus la planète ? De surpeupler la planète ? Et de toute façon, c'est égoïste hein, de faire un enfant, bien sûr, mais à un moment, on s'est posé la question de, peut-être on n'y va pas, en fait.
Je te renvoie vers le livre d'Emmanuel Pont, voilà, qui s'appelle « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Ouais.
J'en ai entendu parler.
Tu vas kiffer.
Ok. Et toi, ton rapport à l'écologie, justement, comment
Comment il est venu ?
Ouais, et puis c'est quoi ton rapport à l'écologie ?
Bah moi, je suis pas un grand écolo à la base. Hein. Je suis même pas un expert du climat ou quoi. Enfin, vraiment, moi, je suis né dans le Jura, donc dans un petit village de 200 habitants. Ouais. J'ai vraiment baigné dans la nature. Ça a toujours été ma raison d'être parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde et où je ressens vraiment ce que c'est le bonheur. Je trouve que c'est très difficile d'y accéder quand t'es en ville tout le temps, dans des murs de béton, que tous tes rapports, toute ta vie, elle est liée à acheter des trucs, consommer des trucs, posséder des trucs. Ouais. C'est très lourd, en fait. Moi, j'ai pas grandi dans ce monde-là. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah ouais, je comprends que ce soit difficile. Enfin, il y a des gens avec qui ça fonctionne très bien, mais moi, personnellement, ça marchait pas.
Parce que justement, t'as grandi dans l'inverse.
Exactement. Et c'est en voyant la nature dépérir, chose aussi qu'on ne voit pas depuis la ville, donc forcément, ouais, ça ne nous fait pas réagir non plus, puisqu'on ne le voit pas. Moi, j'ai vu la neige disparaître. Toutes les stations où j'ai appris le ski, puisque chez moi, il y avait beaucoup de ski, ont fermé. Tu vois, j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et surtout, j'avais envie d'être plus heureux au quotidien. Et je me demandais pourquoi j'avais toujours un manque de sens. Je ne savais pas trop où j'allais. Un peu un espèce de vide, ce grand vide dont tout le monde parle. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment cette situation où l'humain n'est qu'un objet qui sert à produire et consommer, qui me dérangeait foncièrement. Et quand je me suis extirpé de ça pour être plus heureux, bah en fait, ça m'a amené à faire des actions qui sont plus orientées pour le bien-être et la soutenabilité de nos modèles. Donc à la base, c'est pas une histoire d'être écolo, tu vois, c'est plus comment je me sens mieux, comment...
T'as d'abord fait pour toi, quoi.
Ouais, et comment j'ai envie de construire un futur où moi, je suis heureux, tu vois.
Ouais.
Et en faisant ça,
je suis
devenu écolo.
D'écologie.
Ouais.
C'était même pas ça le sujet de base, quoi.
Non, pas du tout. C'était juste, j'ai envie de préserver cette nature qui est importante pour moi, de base, et aussi, vers quoi je vais avancer en tant qu'individu pour me sentir mieux. Et en fait, plus j'avance en tant qu'individu, plus je fais des trucs qui semblent écolo, tu vois. Et à la base, c'est pas pour faire des trucs écolo.
Ouais, mais tu vois, c'est là où je trouve que c'est très difficile, parce que souvent, l'écologie, je pense vraiment au sens large du terme, je pense que les gens qui ne sont pas écolo et qui ne font pas de gestes écolo, c'est parce qu'ils pensent d'abord à eux. Et ils se disent, bah, en fait, moi, ma vie, ça va comme ça, j'ai pas besoin.
C'est ça, surtout qu'en fait, je pense que toi, tu viens du Jura, c'est ça?
Ouais.
Bah non, mais en vrai, c'est bête à dire, mais c'est des régions où tu peux voir l'impact du changement climatique.
Complètement.
Nous, à Paris ou même dans d'autres grandes villes,
sûr,
tu te rends pas compte, en fait. Donc, t'as pas cette image-là du monde qui change, malheureusement. Et je pense aussi que c'est ça qui fait un peu la vision différente que les gens
bien
peuvent
sûr
avoir.
Ça joue, mais par contre, tu vois, il y a un truc où je pense qu'on se trompe collectivement parfois, c'est que quand on se dit « moi, ça va », c'est sûr qu'on est privilégié, hein, les Occidentaux, ouais, on a des super vies, mais en fait, quand tu regardes, il n'y a pas qu'un effondrement écologique, il y a un effondrement du sens. Ouais. Les gens ne savent plus pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi on travaille 100 000 heures dans une vie. Ouais. Si c'est pour en plus flinguer le futur, autant faire une grande sieste. Tu vois, tout le monde se dit un peu de plus en plus ça. Il y a un effondrement du bonheur. Il est démontré parce qu'il y a un indicateur du bonheur aujourd'hui dans le monde. Il y a un effondrement de la santé mentale qui est méga violent. Ça explose les dépressions, les burn-out. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi. Il y a même un effondrement de la santé tout court parce qu'en fait, pour la première fois de l'histoire des mesures de la santé, l'espérance de vie diminue en Occident. Et en fait, tout ça, on n'est pas si bien en fait dans ce modèle-là. Ce modèle, on sent qu'il nous comble avec des trucs un peu rapides, un peu... voilà, des trucs qui nous font du bien sur l'instant, mais que fondamentalement, on se demande vraiment si on est vraiment bien.
Ouais.
Est-ce qu'on est vraiment heureux quand on se pose seul avec nous-mêmes? On se dit, je suis pas certain que dans ce modèle-là, qui me donne à manger toute la journée avec des trucs pour plus ou moins me contenter, je sois vraiment bien. Et quand tu commences à goûter au modèle d'après, où tu te libères de tout ça, non seulement t'es beaucoup plus écolo, mais en fait, tu sais même pas que t'es écolo, c'est juste que tu te départis de tout ce qui pollue aujourd'hui, voilà. Et en plus, tu sens que tu te sens beaucoup mieux, quoi.
Ouais.
Et c'est vraiment ce qui m'a emmené au truc, moi, tu vois.
C'est marrant parce que justement, nous... Vous avez pensé vraiment qu'on est des gros cons. On a envie de partir aussi en Drôme parce qu'on en a marre de commander des livres ou Uber Eats, on en a marre de ça. Alors déjà, moi, j'ai arrêté le Starbucks. Genre, j'ai arrêté le Starbucks il y a 2 ans parce que j'y allais tous les matins. Et en fait, à un moment, je me suis dit, en fait, ils payent pas leurs impôts en France. En fait, ça coûte hyper cher. Et en fait, c'est vraiment de la merde. Je me suis acheté une machine à café, simplement, déjà. Ça a changé un peu la donne. Et puis, on voit que à Paris, c'est vraiment, on veut de l'instantané, quoi. Et avec mon mec, c'est bête à dire, mais on a hâte de plus vivre ça. Tu vois, d'être plus dans un truc de... C'est pas attentiste, c'est quoi le mot, déjà? J'ai plus le mot.
C'est tout de suite, quoi. C'est ce que tu disais très bien tout à l'heure.
Ouais. Mais là où c'est intéressant, parce que toi, justement, t'as été dans cette quête de « là, je me sens pas heureux dans
ma
vie,
en tout cas,
au max. Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois plus heureux ?» Et c'est d'abord soi-même, tu vois. Et c'est ça qui est difficile, effectivement, parce que l'écologie, quand on parle de l'écologie, on dit souvent « ouais, mais pensez à la planète », ce qui est très vrai. Ouais, sauf qu'en fait, il faut d'abord penser à soi.
Ça paraît abstrait, en fait, quand, quand on l'entend.
La planète, elle s'en fout de nous.
Enfin, ouais, c'est plus nous qui avons un intérêt à la garder, quoi.
C'est plutôt, est-ce qu'elle va accepter de nous garder, quoi, les gars, le sujet.
Mais je pense que c'est intéressant que tu dises de... En fait, il y a un effondrement de la santé mentale. On se lève le matin pour gagner des milliers de cents dans des boulots qui nous font pas trop bander, où on n'est jamais. Alors, c'est des extrêmes, mais c'est la majorité des gens sont comme ça, dans un truc de je suis pas excité, je me sens un peu en burn-out, je me sens moins heureux qu'avant, je veux tout tout de suite, et puis quand j'ai pas tout tout de suite, je me sens frustré, donc je suis en colère, donc je suis machin et tout. Et c'est vrai que de se dire qu'est-ce qu'il peut faire pour que. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ? La réflexion, elle peut venir de là.
Mais tu as parlé de Pierre Rabhi. Il a une autre anecdote. Je ne sais pas si tu la connais, celle du petit pêcheur.
Non, je ne la connais pas, celle-là.
Elle est ouf, elle prend une minute, donc je vous la fais si c'est bon.
Ouais,
mais
bien sûr.
En gros, c'est un petit pêcheur qui fait sécher ses filets tranquille au soleil, au bord de l'eau. Il est genre 14h. Et là, il y a un businessman américain en costard qui arrive et qui dit « Excusez-moi, il est à vous le bateau là-bas ? » Et le petit pêcheur, il dit « Bah ouais, pourquoi ?» Il dit « Bah, il n'est pas très gros. » Le petit pêcheur, il dit « Ok, et après ?» Il dit « Pourquoi vous ne retournez pas pêcher ? Comme ça, vous faites plus d'argent, vous en achetez un plus gros. » Le petit pêcheur, il dit « D'accord, et après ?» Le mec, il dit « Et après, vous embauchez d'autres types, vous avez d'autres bateaux, vous faites encore plus d'argent. » Le petit pêcheur, il dit « Et après ?» Et le mec, il commence à s'énerver, il dit « Vous rentrez en bourse, vous devenez millionnaire, c'est génial, vous gagnez plein d'argent. » Et le petit pêcheur, il dit encore une fois « Oui, mais et après ?» Et le mec, il dit « Vous vous reposez !» Et le petit pêcheur, il sourit, il dit « C'est ce que je suis en train de faire. » En fait, ça te mindfuck direct sur... pourquoi on existe, quoi. Enfin, pourquoi on fait tout ça, cette rat race, là, à courir tout le temps, à être tout le temps en train de faire plus de thunes, plus de possessions. Pourquoi ? Tu vois, c'est la seule question qu'il faut se poser, parce qu'à la fin, c'est pas l'argent qui rend heureux, c'est une phrase beaucoup trop facile, parce qu'on en a besoin pour vivre confortablement. Mais en fait, en réalité, moi, j'ai côtoyé beaucoup de millionnaires et quelques milliardaires, parce que dans ma carrière entrepreneuriale, j'en ai souvent vu. Et tous te disent « je n'ai jamais trouvé la réponse au grand vide ». Je l'ai trouvé dans des moments d'une simplicité déconcertante avec mes proches, mes amis, ma famille, et aller courir dans la nature avec mon chien.
ouais, non, mais c'est vrai que c'est très juste. Ouais, non, mais c'est... J'allais dire, il faut changer de paradigme, mais en même temps, c'est facile de le dire. Mais c'est un vrai ressenti qu'il faut avoir, et ça peut s'opérer comme moi, je suis en train de mettre en place les trucs, et... parce qu'on va devenir plus écolo, forcément, tu vois. Mais c'est pas la réflexion de base, sauf que du coup, on va avoir un composteur, on va avoir un potager, et du coup, mon mec, il est en train de se renseigner pour faire des trucs, pour avoir un potager hyper bio, pour pas mettre de pesticides, donc on se renseigne, machin, enfin tu vois, on met des...
Cool.
Donc c'est cool, mais c'est vrai qu'il faut avoir cette réflexion de base de... Est-ce que je me sens bien ? C'est vrai qu'on pense jamais à l'écologie de cette manière-là.
Mais même au-delà de ça, regarde, tes légumes et tes fruits, s'ils sont pleins de pesticides cancérigènes pour toi, pour ton enfant... ça t'emmerde.
Ouais.
Du coup, tu vas te dire, moi, je veux pas des fruits pleins de cancer et de machin. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire moi-même mon jardin.
Ouais.
Et à la base, t'as jamais pensé que t'allais être écolo. Hop, ça y est, d'un coup, tu viens de gagner 3 points d'écolo.
Non, mais c'est vrai.
Et c'est ça tout le temps, en fait.
Ouais.
Le changement de paradigme, moi, je le matérialise d'une façon simple, c'est qu'aujourd'hui, l'humain est l'exploitant de la Terre. Il exploite la Terre. Et il est temps que l'humain devienne le gardien de la Terre. Parce qu'en fait, il a conscience des limites de cette planète, de ce qu'elle produit chaque année. Il sait comment il peut vivre avec tout ça. Eh ben génial, mec. Tu peux avoir une position carrément plus stylée qu'être un vulgaire exploitant parasite. Tu peux devenir le gardien, le bienfaiteur du truc. Moi, j'aimerais bien qu'on change et qu'on aille vers ça, parce que je trouve que ça serait cool.
Est-ce que vos parents, ils étaient où ils sont ? Ils avaient des gestes un peu écolo ? Ils vous ont transmis ce genre de truc ou pas du tout ?
Un petit peu. Si mes parents font le tri sélectif, par exemple, chose que je ne fais pas. Mais c'est vrai que sinon, désolé papa, maman, si vous m'entendez. Mais j'ai pas. Non, ça me. Enfin, là, comme ça, qui vient à l'esprit de gestes écolos qu'ils ont pu faire.
Je sais pas, ou des réflexions, tu vois. C'est pas forcément des gestes, parce que ça peut être on peut être très écolo dans la tête.
Ouais.
Hein,
aussi. Non, comme ça, vraiment, sincèrement, non, je crois pas.
Non.
Ou alors je suis passée à côté. Mais
je réfléchis, à part mon père.
Ils ont un compost dans le fond du jardin, c'est vrai.
Ils ont un compost aussi.
Moi, oui, un peu. J'ai deux parents enseignants, donc ils sont quand même cultivés sur beaucoup de choses. Et sans me le dire ou sans l'exprimer, tu vois, ils n'allaient jamais mettre le chauffage à balles ou faire des trucs pour rien. Ce n'est pas des gens qui étaient des méga consommateurs. Mais bon, moi, j'ai eu une vie avant où j'emmenais des influenceurs à Los Angeles et à Ibiza toute la journée pour acheter des sacs Gucci. Hein.
Tu faisais quoi avant ?
Je créais des communautés en ligne, j'en faisais des médias et j'ai eu géré un réseau social américain qui avait une centaine de millions d'utilisateurs. Et donc, on emmenait des influenceurs dans le cadre de ce média Un peu partout, quoi.
Tu peux pas dire comment il s'appelle ?
Si, il s'appelle Thriller. Mais voilà, c'était un...
Ah, d'accord ! Ça me dit un truc.
Ouais, j'étais en charge de l'Europe de ça avant.
Okay.
Avant Time for the Planet. Oh,
t'as tout, t'as changé, t'as switché de ouf.
De ouf. Parce que justement, j'ai eu la chance. Alors moi, j'ai vendu une première boîte. J'ai gagné un peu d'argent. Pas des millions, mais des centaines de milliers. Et en fait... J'ai aussi vécu cette vie de fast life où t'es tout le temps avec des influenceurs dans des événements de ouf à l'anniversaire privé de Snoop Dogg.
Ça t'a plu ?
Et j'étais toujours pas au max. Mm. Et je disais, en fait, quand on est là et que tu te sens toujours pas au max, c'est que c'est pas là la solution, en fait.
Ouais,
tu vois.
Qu'est-ce qui me manque ?
Ouais, c'est que je vais pas continuer à grimper cette montagne, je vais changer de montagne, en fait. Mm. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait, quoi. Parce que je me suis dit, ben mec, j'ai de l'argent, je suis tout le temps avec des stars, tu vois, et c'est un truc, tous mes potes ils disent waouh, trop cool, ouais. Et moi je suis là genre ouais, mais en fait c'est toujours pas mes moments où je me sens vraiment bien, quoi. Et vraiment, c'est de là que ça naît pour moi.
Ah, c'est fou, hein.
C'est pas facile d'avoir cette réflexion, en vrai, hein.
Je pense que c'est facile de l'avoir, mais je pense que c'est pas facile de la reconnaître, ce qui est une nuance pour moi. C'est facile de se dire, est-ce que je suis heureux, heureuse dans mon
métier? Dans ce sens-là, ouais, mais c'était plus de se dire que ça vient de ce côté-là, fin, de côté écolo... Enfin, pour moi, je sais que je me dis, si jamais un jour ça va pas ou je me sens pas bien, entre guillemets, dans ma vie, je sais pas si je vais remettre ce côté écologie, impact sur la planète.
Mais en fait, ce que dit Arthur, et je trouve que c'est hyper juste, c'est qu'en fait, il a pas du tout pensé à ça. C'est juste qu'il s'est dit, en fait, je me retrouve pas là-dedans. Et moi, j'ai envie de quoi ? J'ai envie que la nature, elle soit belle parce qu'en fait, j'ai vécu là-dedans toute ma vie. Mm. Et que bah, du coup, c'est ça qui me plaît, c'est ça où je me sens en lien. Enfin, je le vulgarise un petit peu, mais...
C'est une très bonne vulgarisation. c'est super.
Et du coup, tu vois, c'est ça qui l'a... Regarde, moi, tu vois, je suis une influenceuse, en vrai, tu vois, je fais...
Ce mot est horrible, de toi à moi. Ce mot est horrible, en vrai.
C'est affreux, moi, j'aime pas du tout. Moi, je dis souvent que je suis artiste parce qu'en fait, je suis aussi comédienne, j'ai été chanteuse, j'ai été mannequin, donc je fais plein de trucs. Et je fais des partenariats. Et je fais des partenariats avec des marques que j'adore. Mais très souvent, je dis, ça me saoule. Parce que j'ai jamais fait ce métier-là pour ça. Je l'ai fait parce que je me découvrais dans le montage, je me découvrais dans le jeu. Et au final, même si je travaille avec des marques qui sont chambées, où j'essaye au maximum de mettre en avant les marques françaises, je le fais pas tout le temps. Je le fais pas tout le temps. Mais il y a des moments où je me dis, putain, en fait, je vends, tu vois. Et ça me saoule parfois.
C'est affreux quand d'un coup, t'as l'impression, et moi j'avais ce sentiment, hein, que tu passes de ce qui te semblait être stylé à... au mot victime dans ta tête. Tu dis, en fait, je suis l'objet...
Ouais, je n'en suis pas là.
Moi, franchement, j'ai eu ça, où je me suis dit, mais le mot victime est un peu fort, mais en vrai, je me suis dit, je sers à fabriquer toujours plus de PIB. Enfin, tu vois, c'est pas fou, quoi, comme truc. Bah, genre.
Tu vois, je me suis imposé un truc, alors c'est ma limite à moi qui est certes pas incroyable, mais j'ai jamais travaillé avec des marques. Si, je l'ai fait une fois en 7 ans, presque. Je veux jamais travailler avec sur le Black Friday, tu vois. Mmh. Ah, parce que déjà, j'estime que je pousse les gens à consommer. Si je peux éviter de pousser les gens à surconsommer, c'est pas forcément la bonne réflexion.
Non, si, c'est très bien. Je me disais juste, faut pas non plus diaboliser le truc. Au contraire, tu peux orienter les gens vers une consommation plus juste. Et je trouve ça chouette comme pouvoir, tu vois.
J'essaie, mais en vrai, je travaille aussi avec des marques. Je réfléchis avec les marques avec qui je travaille. Il y a beaucoup de marques qui sont des petites startups, genre les culottes de règles Moules. Tu vois, je travaille avec elles depuis 5 ans. Et c'est des petites meufs. C'est une petite meuf qui a lancé ce truc-là. Qui fabrique au Portugal, certes, mais la meuf est portugaise. Enfin, tu vois. Mais je vais aussi travailler avec des marques internationales, tu vois. Et c'est là où je me dis, ce foisier. Et en même temps, je pense aussi à l'argent, tu vois. Je me dis, bon, bah, faut que je gagne un peu de thunes. Mais bon, voilà, tu vois. Je trouve que la limite, elle est difficile à trouver. Enfin, ouais. Voilà. On va jouer à un jeu pour qu'on se mette nu. C'est pas vrai. On va jouer à un jeu. Dommage, je sais, Arthur est extrêmement déçu.
Interview avec deux meufs, d'habitude je suis avec 25 mecs barbus de 60 ans et ils ne proposent jamais le jeu. Hein.
Alors, juste en face de vous, il y a un dé avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est reliée à une question intime. C'est des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet de ce soir. C'est vraiment fait pour. Tu peux lancer le petit dé. Vraiment, c'est des trucs très légers comme profonds, ça dépend.
Vert.
Sans qu'on va parler de cul, je le sens.
Hein ?
On va parler de sexe, c'est sûr.
Bah, je crois pas. Quelle est la remarque la plus désagréable que l'on t'ait faite au travail ?
Oh !
C'est chaud, hein ?
Tu m'aurais dit dans la vie de tous les jours, là, j'aurais trouvé au travail.
Bah, vas-y, tu peux nous dire dans la vie de tous les jours. C'est un truc qui te...
J'aime pas qu'on me le dise, mais en général, on me dit que j'ai l'air hautaine. Et ça me vexe.
Que
j'ai l'air hautaine.
Ah, on me le dit aussi.
Et ça me vexe. Mais je sais que c'est mon visage qui fait que...
C'est ton attitude, peut-être ?
Je sais pas. Non, je sais que peut-être que quand je souris pas, j'ai un visage fermé, mais...
Bah, comme la plupart.
Pourtant, je suis pas, mais quand on apprend à me connaître... Voilà,
je trouve pas du
tout. Ah, merci.
Pas l'air
merci, ça me fait plaisir.
Je comprends que ça puisse... Que ça
c'est
puisse
vexant. Vexer.
Ouais, ouais. Vas-y, tire le petit dé, Arthur.
Allez, avec grand plaisir. Orange.
Mets-toi tout nu. Non, c'est faux. C'est quoi? C'est rouge?
Orange, ouais. Oui, enfin, après, je suis peut-être
attends,
un peu...
Attends, c'est rouge ou orange?
Ah bah là, moi, je vois du orange. Hein,
ok,
je...
c'est orange.
Ah oui, c'est orange.
Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps et que tu n'as pas encore réalisé?
On n'a pas le droit de parler de cul. Hein, non, je pense. Ben ouais, en vrai, avoir mon petit chalet dans les montagnes, quoi.
Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire?
Eh ben justement, pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faudrait que je m'y mette. Juste, j'ai une vie où je cours tout le temps à droite à gauche dans des villes, machin, et voilà. Je dirais que c'est ça.
Ouais.
Après, il y a plein d'autres trucs, donc ouais. On va pas tous les faire.
Mais ça, ouais. c'est un truc que t'aimerais avoir.
Ouais, vraiment, ouais.
Un truc à toi.
Ouais, c'est l'aspiration de ma vie. J'ai un appartement à Lyon, et en fait, avoir ce sanctuaire, tu vois, parce qu'on n'a pas d'autres mots, je crois que c'est vraiment mon goal. Mais limite, j'ai peur qu'une fois que je l'ai, je me dise, c'est quoi le goal, là, tu vois, après. Donc faut que je...
Bah, tu me disais il y a 2 secondes, j'ai plein d'autres rêves.
Oui, tout à fait. Mais celui-là, c'est le beau rêve. Quoi,
donc peut-être que t'attends un petit peu.
C'est possible. Mais je suis con, hein, parce qu'on peut mourir demain écrasé par un,
ouais. Bah ouais.
Par un scooter électrique. Truc un peu...
Mais surtout qu'en plus, demain, peut-être que tu peux l'avoir et tu peux en faire un lieu.
Non, mais je vais le faire. C'est,
ça, contre, enfin, ouais. J'en sais rien, tu vois.
Tout à fait, d'ailleurs, ça sera probablement ce que je vais faire. Tu sais qu'à la place de Time, à la base, j'avais pensé à faire un truc qui s'appellerait Bonheur et Bonheur.
Okay.
Et je me disais, je vais inviter des gens influents, pas des influenceurs, mais des politiques et des gens influents qui ont des communautés, qui sont des artistes. Et je vais les sensibiliser au sujet de l'urgence de faire une transition, mais de manière sympa, tu vois, cool. Ouais. Dans un environnement, ils vont venir se reposer. Et je me disais, c'est pas mal en termes d'impact, tu vois, sans trop le savoir.
C'est une bonne idée. Tu peux retirer le dé une nouvelle fois. Alors, faut pas que ce soit la même couleur.
Ah. C'est bon.
C'est quoi?
C'est bleu.
C'est bleu, bleu, bleu.
Il a triché comme les gens qui jettent le dé sur 6 et tu sais, ils le lâchent.
Exactement.
Genre, 6
C'est ça.
Je connais pas les questions.
Alors, ta maison a brûlé et tout ce que tu possèdes a pris feu. Si t'as l'occasion de pouvoir récupérer une seule chose intacte, laquelle ce serait?
Mon chien. Alors, c'est pas une chose.
C'est pas une chose.
Faut une chose.
Waouh, ça fait vraiment beaucoup de peine pour lui.
Mais si ça devait être un objet. Oh.
C'est dur, hein, un objet.
C'est franchement dur.
Réfléchissons.
Si je devais sauver un objet. En vrai, je me dis, c'est que du matériel et tout peut.
Eh, la télé, frérot.
PC. Je sais même pas.
C'est dur, hein, un objet.
Truc sentimental. Qu'est-ce que j'ai de sentimental
Moi, je sais.
Moi aussi, ça y est, je l'ai.
Mon huile essentielle de menthe poivrée. Parce que j'ai des maux de tête, donc je mets ça souvent.
En plus, ça amplifie l'effet du feu direct.
Ah,
s'il passe là-dessus, voilà. C'est une bombe, le truc.
Je sais pas, j'irai ma boîte à bijoux, parce que ouais, j'ai des trucs sentimentaux un petit peu dedans.
Ouais. Ok. Et toi?
Moi, mon N-Pan. Alors, c'est un truc chelou, mais c'est un instrument de musique qui se joue comme
ouais,
ça, là.
C'est du steel drum.
Des jolis sons. Ouais, c'est ça. Ah, et en fait, il m'a été offert par tous mes amis et mon ex, ma famille. Ça coûte une blinde, cette merde.
Hyper cher.
Tout le monde a mis genre 20 balles, mais du coup, c'est l'objet qui catalyse toute la gentillesse
mais
de tous mes
amis. Mais c'est pas le steel drum, parce que le steel drum, il est creux. Là, c'est bombé.
C'est genre un barbecue solaire, le truc.
Oui, c'est ça.
C'est
voilà.
Une carapace de tortue.
J'adore ce son.
Et tu tapes dessus, c'est beau, purée. Moi, ça me détend.
J'adore.
Ouais, je connais pas du tout.
Tu peux tirer le petit dé une dernière fois.
Avec un plaisir non dissimulé. J'ose.
Il aura fallu.
As-tu déjà fouillé dans les portables de ta partenaire?
Wow, non, je crois pas. Ou alors peut-être quand j'avais 14 ans, mais...
Depuis, tu l'as jamais refait?
Non, je fais jamais ça.
Putain, beau gosse. Hein. Oh, je l'ai tellement fait, pas toi? Mais évidemment. T'as jamais refait?
Non.
Parce
non.
Que tu fais confiance...
Mais je pense que c'est plus un truc de fille, ça.
Ouais, c'est plus un truc de meuf, c'est vrai.
Parce que je pense que la cage, la seule cage dans laquelle l'oiseau reste, c'est celle où la porte est ouverte.
Voilà,
je
vous laisse méditer à ça.
La seule cage... Dans quoi, redis?
Dans laquelle l'oiseau reste... C'est celle où la porte est ouverte. C'est juste pour dire, moi, j'ai pas toutes les règles du couple, on va dire, traditionnel. Et du coup, je suis en détente, en fait. Si je dois me sentir en danger dans mon couple, c'est que c'est pas normal.
Ouais.
Et donc, c'est que ça ne va pas, c'est que je suis pas avec la bonne personne.
Parfois, tu peux être avec la bonne personne, mais c'est juste que t'es pas au bon endroit avec toi-même aussi.
Oui, ou que c'est toi qui va pas bien.
Ouais, un manque de confiance.
Tout à fait.
Si tu devais définir la situation actuelle, tu dirais quoi? Est-ce qu'on est dans la merde? Est-ce qu'on va droit dans le mur? Est-ce que, franchement, ça va?
Ça va pas, hein.
Si. Non, bah, je sais pas, peut-être que tu t'aurais pu nous dire ça.
Bah, non, je dois répondre vite ou c'est quoi?
Non, on a le temps.
Ouais. Bah, clairement, ce qui se passe, si je vous fais une petite vulgarisation rapide, c'est qu'en gros, le climat est en train de changer, vous l'avez tous compris, à cause des émissions de gaz à effet de serre. Et on va vers une trajectoire qui pourrait être...
Je vais permettre de te couper. Si le climat change, c'est uniquement gaz à
oui,
c'est uniquement à cause des gaz à effet de serre.
Ça a pu changer par le passé plein de fois. Hein. Le climat a toujours changé, mais pas dans les proportions actuelles. Les volcans sont souvent responsables d'un changement climatique, mais plutôt d'un refroidissement habituellement. Là, on est sur un réchauffement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la trajectoire qu'on suit actuellement, donc si on ne change rien, c'est plus 5 degrés. Alors là, on a envie de se marrer et dire « bah trop cool, tu vois, dans le Jura, moi j'enlève mon pull, je suis tout à fait heureux. » quoi. En fait, c'est très mal vulgarisé par le GIEC et les scientifiques parce que plus 5 degrés, ça ne veut pas du tout dire plus 5 degrés. Là, il fait plus 5 degrés. Il y a 20 000 ans, l'Europe, elle était recouverte d'un glacier de 3 km de haut. Donc 10 fois la Tour Eiffel en glace. Les mers, elles étaient 130 mètres plus bas. Et la seule différence qu'il y avait entre ce monde-là et aujourd'hui, c'était 5 degrés. Il faisait 5 degrés de moins. Et en faisant ce changement de 5 degrés sur 20 000 ans, les espèces se sont adaptées, c'est allé. Mais on est arrivé au monde qu'on connaît maintenant, dans lequel on est plutôt chill, tu vois. Et là, on part pour faire plus 5 degrés. Il faut savoir que, par exemple, le Sahara, il y a 6 000 ans, donc pendant ce processus, il devait faire à peu près 3 degrés de moins que maintenant. C'était une forêt tropicale avec le plus grand lac du monde. Je vous invite à regarder sur Google. Et c'est devenu le Sahara, avec 3 degrés. Là, on part vers plus 5 degrés en 100 ans. Donc, c'est impossible que les espèces s'adaptent, qu'on s'adapte. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est un gros problème. C'est pour ça que les scientifiques paniquent un peu. C'est qu'il y a des points de non-retour. Ça s'appelle les boucles de rétroaction. Et en fait, il y a des phénomènes géologiques, naturels, qui sont en train de se démarrer. Et s'ils partent trop, on ne peut plus du tout les arrêter. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit concret. Le permafrost. Alors ça, vous en avez peut-être entendu parler. Tu en as déjà entendu parler ou pas ?
Du tout.
C'est des terres gelées qui représentent 20% du globe. Elles sont tout le temps gelées. Et c'est très bien parce que dans ces terres, il y a du méthane. C'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus réchauffant que le CO2. Et ce méthane, aujourd'hui, le permafrost est en train de fondre. Donc, ce n'était pas prévu qu'ils fondent, c'est la première fois qu'ils fondent. Et il est libéré, le méthane, dans l'atmosphère. Et donc, il accélère le réchauffement climatique. Il accélère donc la fonte du permafrost, qui libère de plus en plus de méthane, qui réchauffe de plus en plus le climat, qui fond de plus en plus. C'est pour ça que ça s'appelle une boucle. Il y a 20 boucles comme ça, qui sont des énormes phénomènes géologiques. Et si elles partent trop, au-delà de plus de 2 degrés, c'est pour ça que tout le monde s'est chauffé sur les 2 degrés, en fait, on ne sait pas du tout quelle dérive climatique on va se prendre. Et ça sera incontrôlable. On pourra faire toutes les danses de la pluie qu'on veut, toutes les salsas. Ça sera pas rattrapable, en fait.
Quand tu dis les plus 5 degrés, est-ce que tu arrives à estimer une temporalité là-dedans ?
À la fin du siècle. En gros, aujourd'hui, d'après les promesses, on est à plus 3,6 degrés à la fin du siècle, mais c'est des promesses. Et d'après les actes, on n'y est pas du tout. Et donc, c'est quand nous, on aura 70-80 ans, que ça sera vraiment la grosse merde. Et quand on aura 40-45 ans, ça sera déjà beaucoup la merde, parce qu'en fait, la merde va commencer dans d'autres pays que les nôtres, très principalement, même si nous, on va avoir du bordel, mais les pays du Sud, ça va être catastrophique. Et si on reste sur cette trajectoire, c'est 3,5 milliards de personnes qui vont devoir migrer, parce que, donc ça, c'est si on atteint vraiment le bordel. Hein. Et donc, si elles migrent, elles vont se déplacer là où c'est vivable, c'est-à-dire chez nous. Et donc, ça veut dire que c'est des guerres partout. Donc, en gros, aujourd'hui, on peut choisir entre cette merde absolue et un modèle plus stylé, où on sera tous mieux, et où justement on aura moins ces questionnements de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, pourquoi je fais des burn-out, pourquoi j'ai du sens. On est là maintenant. Donc on est en finale de Coupe du Monde pour de vrai, les gars, là.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est beaucoup plus que le foot. Ouais. C'est la finale de Coupe du Monde de l'histoire humaine. Ouais. Et on peut gagner, en fait. Ouais. Donc si on donne un peu tout, ça serait plutôt légendaire qu'on gagne, tu vois.
Mais donc, en fait, au-delà des gaz à émissions...
Des émissions de gaz à effet de serre.
J'ai du mal, hein. Des émissions à gaz à effet de serre. Ce qui se passe dans le monde, genre par exemple, cette Coupe du Monde... Par exemple, tu vois, c'est quand même un enfer écologique, tu vois, de mettre des clims sous les sièges, de construire un endroit pour. Est-ce que ça, par exemple, ça a un impact ?
Ah bah ouais, c'est pas folichon, ouais.
Oui, c'est pas folichon. Non, mais je te pose la question parce que c'est. On sait que c'est de la merde, on sait que c'est incohérent, que c'est une ineptie totale, mais en quoi concrètement, au-delà des gens qui meurent, qui travaillent et qui meurent et machin, et c'est déjà beaucoup trop d'ailleurs, qu'est-ce que ça crée ?
Bah, en fait, ce qui est simple, c'est que par exemple, tu parles des clims. Dès que tu creuses le truc, tu te rends compte que tout crée du bordel. Par exemple, les clims, elles sont faites avec des gaz HFC. Je vous épargne les détails, mais c'est des gaz des milliers de fois plus réchauffants que le CO2. Et chaque fois qu'on allume une clim, on fout ça dans l'atmosphère. Et juste les clims dans le monde, c'est l'équivalent de tous les avions en termes de réchauffement climatique.
Ah ouais, putain.
Et en fait, il y a des trucs comme ça partout, non. Les gars. Mais tu vois, avec Time for the Planet, on a investi dans des mecs qui ont fait une un système de production de froid qui n'utilise plus du tout ces gaz. C'est que de l'eau en circuit fermé. C'est aussi puissant, mais il n'y a plus de gaz à effet de serre. Donc tu vois, il y a plein de trucs stylés en fait, il y a plein de solutions. Mais il faut qu'on s'occupe de les faire grandir et qu'on repense notre façon d'habiter le monde. Parce que ça ne suffira pas juste de déployer des nouveaux types de clim. Si on continue de fonctionner comme on a toujours fonctionné, on foutra tout en l'air à la fin, même avec des clims super bien.
Ça te parle tout ça? Qu'est-ce que...
Ouais, moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu peux conseiller du coup, par exemple, pour moi qui ai du mal à entreprendre des choses pour améliorer, entre guillemets, le climat ou d'autres choses? À ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire déjà pour commencer dans entre guillemets.
Eh bien déjà, ce que tu fais maintenant, être vachement courageuse et dire, moi je suis pas au top, comment je peux m'intéresser au truc? Franchement, bravo, c'est chouette, tu vois. Enfin, et je pense que te dire, je vais essayer de comprendre. Le premier truc, c'est se déconstruire et donc comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois. Et donc, je t'invite vraiment à aller regarder des vidéos, à prendre un peu de temps pour te dire, allez, ce soir, je vais vraiment écouter un podcast sur c'est quoi le problème du climat en fait. Juste pas de honte à taper ça, quoi, tu vois. Enfin, nos stress, c'est cool. Enfin, ouais. Donc, tu tapes sur Google, qu'est-ce qui se passe avec le climat? Alors, tu fais gaffe, il y a plein de trucs un peu border, des fois, qui sont poussés. Prends des bonnes sources, tu vois, des trucs qui sont un peu solides. Mm-hmm. Moi, je t'invite, par exemple, à lire des livres comme le livre de Jean-Marc Jancovici, voilà, ou de Thomas Wagner avec Bon Pote, qui s'appelle Tout comprendre ou presque sur le climat. Des livres très simples, illustrés. T'as fini ça, t'as déjà fait un méga pas parce que tu te dis, ah ouais, ok, c'est quand même le bordel, cette histoire.
Ouais, je prends conscience.
J'ai envie que mon futur, il soit bien. Mm. Et puis après, ça se fera petit à petit et tu vas comprendre, tu vois, mais... Voilà. Mais trop bien, bravo. Enfin, moi, je trouve que tu as une humilité et un courage qui est génial, quoi. Tu vois, il faudrait que les gens aient ça déjà de base.
C'est clair, pourtant, j'ai pas l'impression.
Et moi, je peux te poser une question aussi ou pas?
Oui.
On détourne la pauvre.
non, mais bien sûr.
C'est intéressant en vrai, du coup. C'est qu'est-ce qui fait que tu ne t'y intéresses pas aujourd'hui? Est-ce que c'est que tu te dis ça va être chiant? Est-ce que c'est que tu te dis ça a l'air compliqué? Est-ce que c'est que tu te dis c'est que des fous furieux en sarouel qui gueulent dans la rue?
Non, en vrai, je pense plus que. Je trouve que c'est compliqué. Enfin, ça m'a l'air compliqué. Mmh. En vrai, je sais même. C'est ce que je te. Enfin, du coup, en te posant ma question, c'est juste, je sais pas par où commencer, quoi faire, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Enfin, c'est vraiment abstrait, en fait, pour moi.
C'est trop intéressant. Parce que je pense que la plupart des écolos ne réalisent pas que 99,9% des gens sont dans cette situation et disent.
Ouais, complètement.
Et nous, on fait de l'entre-soi. Tu sais, on se parle de trucs qu'on connaît déjà. Mmh. Et on se panique dans un truc qu'on connaît déjà. Donc, c'est pas très utile. Et c'est chouette, bah en effet, intéressant. Je pense qu'il faut vraiment que, justement, le monde du marketing, de la communication, des réseaux sociaux, arrive à s'emparer de ça. Mmh. D'ailleurs, nous, on organise un énorme truc avec tous les influenceurs français. Je t'inviterai, puisque tu te qualifies comme influenceuse, et puis parce que t'es sympa. c'est un gros truc pour leur parler du climat, mais de manière joyeuse, avec des humoristes, avec des entrepreneurs, mais positifs, tu vois, des projections du futur qu'on peut réussir à créer. Pardon ?
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle le Trendy Event, et on fait ça le 8 mai, voilà. Mais c'est que pour les influenceurs, pour le coup, sinon il y aura trop de monde. Mais voilà, tu recevras ta petite invite.
Est-ce que toi, il y a des enjeux que tu as du mal à saisir?
C'est-à-dire,
est-ce que là, de ce qu'il nous explique, je pense que bon, c'est hyper concret, mais est-ce que tu as du mal à le saisir parce que tu te dis, mais je m'inclus dedans, hein. Oui, c'est la merde, mais vu que dans ma vie, ça va, enfin, je sais pas comment je pourrais expliquer.
Si je vois, du coup, en fait, vu que dans ma vie, ça va,
ouais.
Je vois pas ce que je peux faire de plus pour que ça aille de ce point de vue-là, en tout cas. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment d'enjeu particulier.
Et c'est ça aussi, parce que quand dans ta vie, ça va.
Ah oui, bah ouais. Clair que c'est ça.
C'est ça qui est chiant. Ça veut dire que tu le fais pas pour toi, mais tu le fais pour les autres et pour le futur et pour la planète.
Ah ouais.
C'est tout le sujet.
Et que c'est très difficile au final, parce que.
Du coup, c'est un peu égoïste.
Mais c'est complètement égoïste. Son choix est complètement égoïste. Enfin, tu vois, égoïste n'est pas synonyme de mauvais. Hein.
Ouais, mais de toute façon, nous aussi, c'est égoïste en soi.
Mais complètement. C'est de pas être écolo, de pas mettre les choses en place, c'est égoïste. Comme lui, son choix de s'impliquer, c'est pour lui. Mais je trouve que c'est très difficile, d'autant plus quand tu dis « Ma vie, ça va. En vrai, tout me va, tu vois. Donc pourquoi je ferais quelque chose ?»
Non, mais le dérèglement.
C'est pour l'autre. C'est, en vrai, la réflexion, elle est très difficile à...
Le cerveau humain n'est pas fait pour ça.
Ouais.
On doit empêcher d'arriver un truc qu'on ne voit pas.
C'est ça.
Et qui arrivera peut-être.
Ça paraît tellement loin et à la fois proche en même temps.
Mais c'est pour ça
on sait que ça va arriver.
C'est pour ça que c'est dur pour l'humain. C'est vraiment un challenge de ouf de faire ça. Le cerveau n'est pas fait pour ça. Il y a un super livre là-dessus qui s'appelle Le bug humain et qui te dit en fait, on est tout le temps dans des comportements de survie parce qu'on a un petit cerveau à l'intérieur de notre cerveau qui s'appelle le striatum, qui est le cerveau ancestral et qui te dit. Eh ben, pour survivre, mon gars, tu dois manger à profusion quand il y a de la bouffe disponible. C'est pour ça que l'obésité tue plus que la malnutrition dans le monde. Quand tu peux baiser, bah, tu vas baiser à fond parce qu'il faut que tu reproduises ton patrimoine génétique le plus possible. En fait, tous les comportements de survie sont ultra encouragés par ce petit cerveau striatum. Et toi, après, tu as un gros cortex dessus qui te dit « Moi, je sais faire des trucs de ouf, je sais faire en sorte qu'il y ait de la bouffe pour 8 milliards de personnes dans le monde et tout. » Mais en fait, au final, c'est un conflit permanent de ces deux cerveaux et c'est très dur pour l'humain de se dire « Je vais m'impliquer pour un hypothétique futur. »
C'est vrai que c'est très difficile.
Mais c'est tout notre problème, en fait.
Podcast. Est-ce que, pour vous, l'écologie, c'est un problème de riche ou c'est un peu une idée reçue?
Pour moi, c'est un peu une idée reçue, quand même. Parce que, on a tendance à dire que les produits bio, c'est cher. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel centre commercial ou magasin, tu trouves des choses abordables. Et après, c'est une histoire de comment tu gères ton argent aussi. Est-ce que tu as envie de mettre ton argent dans des choses de qualité? Un peu comme les vêtements, du coup. Quand tu achètes de la fast fashion, c'est un peu ça. C'est plus ce mouvement de se dire, c'est comme tu disais tout à l'heure, cette envie de
tout de suite,
qui fait que du coup, tu achètes pas cher parce que tu as envie de quelque chose. Alors qu'il suffirait juste de repenser la chose et de se dire, peut-être que je peux acheter de meilleure qualité et du coup, du bio, par exemple.
Non, j'ai pas fait. Non,
mais ça va partir en débat là.
Non, mais parce que je pense en fait typiquement à ces familles qui vivent dans des HLM et qui
bien sûr
sous le seuil.
Après, tout le monde n'a pas les moyens non plus. C'est comme tout.
Tu vois, ils vont chez Aldi ou parce que ça coûte pas cher et donc en fait pour eux le bio c'est tellement loin d'eux.
Il y a du bio dans les magasins comme ça.
Il y a du bio, je sais. Mais quelque part, ils sont écolos parce qu'en fait ils font avec ce qu'ils peuvent et ils sont pas dans la Et je pense qu'ils sont beaucoup plus écolos.
Bien sûr, ils font bien attention à tout.
Mes problèmes de riches, en fait, c'est vrai. Et là où tu as complètement raison, c'est qu'on n'arrête pas de dire que le bio coûte cher. C'est vrai quand tu vas chez Naturalia.
Voilà, c'est ça.
Effectivement. Mais il y a plein de petits producteurs, moi qui habite dans le 15e. T'as la rue Le Courbe, t'as un Monoprix, t'as un Naturalia, et puis t'as un petit magasin d'agriculteurs que de produits de saison, que en circuit court, et ça coûte pas plus cher, ça coûte beaucoup moins cher.
Ouais, mais c'est sûr.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vraiment un truc de riche?
Moi, je regarde les chiffres. Hein. Un Somalien, aujourd'hui, son empreinte carbone moyenne, elle est 100 fois inférieure à celle d'un Français.
Ouais.
Les 1% les plus riches du monde, ils captent l'équivalent du PIB cumulé de 167 pays ensemble. Donc ça fait 19 trillions. Et les émissions des 10% les plus riches du monde, c'est 50% des émissions totales sur Terre. Donc ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le sujet de l'écologie, c'est d'abord et avant tout le sujet des riches, de nous. Parce que les 1% les plus riches du monde, c'est 80 millions de personnes, c'est nous. Et en fait, le mec qui est dans les banlieues, qui galère à finir les fins de mois en France... Son empreinte carbone, c'est 4 tonnes, 5 tonnes. Donc le but, c'est d'être à 2 tonnes. Normalement, il faudrait qu'on atteigne ça pour ne pas partir en live avec les points de non-retour. Aujourd'hui, on est en moyenne à 10 tonnes. Et les Français qui ont de l'argent, ils sont plutôt aux alentours de 20-30 tonnes. Et ça veut dire que les gens qui sont dans les banlieues, qui galèrent déjà, on va nous leur dire d'aller faire des efforts, alors qu'on a une empreinte carbone 10 fois supérieure à la leur. Ce n'est pas du tout leur sujet. Enfin, commençons par le faire et ensuite, on pourra réclamer que ça soit leur sujet, quoi. Moi, c'est vraiment ça, mon opinion.
Podcast. Est-ce qu'on pourrait avoir votre point de vue sur le véganisme? Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est une réelle solution? Toi, t'en penses quoi?
Je peux te laisser commencer.
Si tu veux, avec
toi. Tu réfléchis?
Ouais.
Sur le véganisme...
De plus manger de viande, de plus...
Alors moi, j'ai un point de vue plus nuancé que certains de mes camarades. Je pense que tout dans l'extrême est mauvais, en fait. Tout. Tout ce qu'on fait, dans un extrême ou dans l'autre, c'est pas bon. Je pense que c'est évident qu'il faut réduire notre consommation de produits animaux, parce qu'en fait, on éclate aujourd'hui, mais c'est un truc de malade. On tue 120 milliards d'animaux par an, l'humanité, pour se nourrir. 120 milliards. C'est un truc de baiser, désolé pour le veau. Et en fait, 80% des terres cultivées dans le monde servent à nourrir des animaux. Pas à nourrir nous directement, ça nourrit des animaux qu'on mange ensuite. Donc déjà, la famine dans le monde n'est pas un sujet si on réduit la consommation de viande. Vraiment, ce n'est pas un sujet. Donc la viande, de manière générale, et les produits animaux, évidemment, on en mange beaucoup trop. On a fait x5 par rapport à nos grands-parents. On est parti en couille. Donc il faut réduire, c'est évident. Ça a un impact hyper fort pour le climat. Hein. Aujourd'hui, si vous arrêtez très fortement de manger de la viande, vous n'arrêtez pas complètement, mais vous réduisez, vous en mangez plus qu'une fois par semaine, vous avez réduit de 10% votre impact carbone. Comme ça, d'un coup. C'est énorme, tu vois, tu te rends compte. Et je pense que les gens sont un peu dérangés par le véganisme parce que c'est une position tellement extrême. Je pense que ça ne marche pas de dire aux gens, vous arrêtez tout. Les gens ont besoin quand même d'avoir un peu un équilibre. Et je crois que manger un tout petit peu de viande et de manger un tout petit peu de poisson, c'est OK. Mais pas comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on bouffe 14 fois par semaine de la viande et du poisson.
Tu en manges, toi ?
J'en mange un peu, ouais, j'en mange un peu.
Selon toi, il faudrait plutôt être flexitarien. Comme
ouais, moi je mange quasiment pas de viande rouge, parce que c'est vraiment celle-là qui crée le bazar climatique. J'en mange deux fois par an, pour le coup, là tu vois, je suis assez hardcore. Ouais. Mais quand j'en mange...
Pas deux fois par an
et... bah, parce que c'est souvent quand on m'invite et que, ou que mes grands-parents me font ouais. une super côtelette, ils sont trop contents. Ouais. Je vais pas dire « Ah, no way », tu vois. Genre, donc je respecte les gens qui m'invitent. Et après, je mange un peu de poulet, qui a une empreinte carbone beaucoup, beaucoup moins élevée. Je sais pas, une fois par semaine, on va dire.
Ouais.
Mais pourquoi d'ailleurs
l'empreinte carbone du poulet ?
Ouais.
Bonne question.
Parce que les bœufs, les vaches sont des ruminants. Et donc, ils ont quatre estomacs. Ils ruminent 15 heures par jour. Donc, ils passent leur life à bouffer de l'herbe. Et en fait, quand ils ruminent, le principe, c'est qu'ils rotent. En fait, ils ne font que roter. C'est un mot qu'on utilise qui est un peu poétique pour le dire. Mais en fait, ils rotent toute la journée et ils rotent du méthane, le fameux gaz qui est des dizaines de fois plus réchauffant que le CO2. Alors, tu te dis, mais c'est anecdotique, des vaches qui rotent.
C'est vrai qu'on n'y pense pas. Aussi, hein. Je crois ouais. que les deux.
Mais quand on parle de dizaines de milliards de vaches qui font ça 15 heures par jour toute la journée, et non, c'est pas les paix, c'est que les roues.
C'est que les
roues.
Ah, d'accord.
Et ben en fait, ça fait un réchauffement de malade mental. Ouais. C'est fou, hein.
Ah, mais du coup, ce serait même pas arrêter de consommer de la viande, ce serait plutôt arrêter de surproduire en fait ces élevages.
Ben oui, ouais. Mais in fine, on les produit pour manger, oui. Et du coup, si on réduisait notre viande, on réduirait naturellement ces élevages.
Ouais, c'est vrai.
Mais ouais, ouais, t'as raison en soi.
Et toi, t'en penses quoi du coup alors ? Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que vraiment...
Je suis un peu pareil. En fait, je suis un peu partagée entre ce côté extrême et ce côté ils ont raison. Moi, je mange de la viande quand même, mais de manière raisonnée. C'est pareil, je mange quasiment jamais de viande rouge.
Ouais.
C'est
parce que t'aimes pas ça ?
Ben, en fait, maintenant, voilà, j'ai des actes. Mais c'est même pas de temps pour... C'est parce que c'est quelque chose que j'apprécie et que je préfère apprécier de manière occasionnelle. Mm. Mais je mange pas forcément de la viande à tous les repas, même si voilà, j'apprécie. Mais après le véganisme, voilà, comme tu disais, c'est toujours les extrêmes. Et quand c'est trop, à un moment, bah, ça devient justement trop. Faut...
D'ailleurs, on confond véganisme et végétarien. Ouais, et c'est moi là, le problème de l'histoire, parce que c'est moi qui vous ai induit en erreur là-dessus. Mais vegan, c'est aucun produit issu
ouais.
des animaux.
C'est ça. Même pas de miel, ça, même pas de beurre.
Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment extrême.
Ouais.
Là, tu parles de végétarien. Là, pour moi, c'est plus OK déjà.
Moi, je me dis surtout, chacun fait comme il peut. Fait comme il peut. Pas chacun fait comme il veut. Enfin, si aussi. Mais chacun fait comme il peut. Et c'est vrai que si on essayait de réduire considérablement notre consommation de viande, moi, genre, j'aime trop la viande. J'aime trop le saucisson et tout. Mais chez nous, on en achète très peu. On achète du poulet de temps en temps. Mais on n'achète jamais de viande rouge. Jamais, jamais. Ouais. Ça fait genre... Ça se compte en années qu'on n'a pas acheté une bavette ou un truc comme ça. Et quand je vais au resto, parfois, je m'en prends une.
Ouais,
mais justement, tu vois, on se dit, pour un truc écologique, mais on ne savait pas trop pourquoi. Donc tu me l'apprends un peu. Juste, on se disait, oh, on sait que c'est pas trop bon et tout, mais... Arthur, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau ? Je nous inclus, nous et d'autres personnes, des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un peu bouger les choses?
Ben, moi, pour moi, le premier truc, c'est de se déconstruire. C'est de se tourner vers soi et de se dire ben, je vais essayer de comprendre un peu et je vais aussi re-questionner des trucs qui me semblent être normaux parce qu'en fait, ils ne le sont peut-être pas, tu vois. Et ça peut paraître un peu philosophique, mais en réalité, tout commence par là. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas ne va jamais tenir une mesure sur la durée. Si tu es là et qu'on te dit « mange pas de viande, c'est pour le climat », et que tu sais pas pourquoi, bah, au bout d'un jour, tu vas dire, mais en fait, c'est bon, quoi. Moi, je vais manger ma viande, quoi. Et je crois que c'est tellement important de d'abord se dire, bah, j'ai compris pourquoi. C'est bien plus important que d'essayer de faire des actions sans vraiment les comprendre, qui ne seront pas pérennes, quoi.
Mais une fois que tu as déconstruit,
ouais.
Selon toi, par quoi...
Qui a de l'impact.
Ouais, l'un des premiers trucs qui... Ouais.
Ah bah, ça, c'est clair, on les connaît, les trucs. Hein. Le premier truc, c'est l'avion. Enfin, l'avion pour nous qui le prenons souvent. Parce que seulement 8% des gens dans le monde ont déjà mis les pieds dans un avion. Ça aussi,
ah ouais,
tu vois.
C'est si peu.
Rien. Et on le sait pas, parce que nous, moi le premier, j'ai pris l'avion de ouf. Hein. Ouais. Mais en fait, l'avion, on devrait avoir une empreinte carbone de 2 tonnes par an pour éviter tous les points de bascule que j'ai dit là, en moyenne. Un seul voyage aller-retour, genre aux États-Unis ou à Bali, c'est 5 tonnes. Donc t'as niqué deux ans et demi d'empreintes normalement. Donc c'est vénère quoi, tu vois. Donc les week-ends à l'autre bout du monde en avion, ça, si vous pouvez les éviter, vous allez vous faire du bien. Et en plus, on habite dans le plus beau pays du monde, on a de la chance quand même. Il y a tellement de trucs stylés autour de chez nous. Les trains sont hyper pratiques pour aller à 300 km/h où on veut en Europe. Donc c'est assez chouette. Après, le deuxième truc, c'est la viande. Hein. Franchement, réduire la viande, c'est hyper efficace. Le troisième truc, c'est plus lié à la voiture, essayer d'avoir des mobilités plus douces, donc être plutôt dans un train si je peux, ou tu vois, si...
Une voiture électrique.
Alors, ça dépend du type de voiture électrique, mais
ah
merde, oui.
Putain, on a pris une voiture électrique.
J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, que c'était pas si ouf niveau...
Il y a beaucoup de débats, mais une petite voiture électrique, c'est bien. Une voiture de 2 tonnes, comme ils les font aujourd'hui, notamment les grosses Tesla, bah, malheureusement, elle est rentable écologiquement après 100 000 km. Parce qu'en fait, ouais, c'est tellement lourd et tout ça. Par contre, une petite voiture électrique, ça fait sens. Mais en fait, aujourd'hui, 40% des gens qui prennent leur voiture tous les jours le font pour faire moins de 2 km. Mm. Tu vois, si juste là, tu dis, bon, je vais juste y aller tranquillou en vélo. Malheureusement, le monde n'est pas encore suffisamment prêt. Hein, parce que tu ne peux pas être irréprochable dans un monde qui n'a pas fait sa mutation. Et si tu n'as pas de piste cyclable et que tu frôles la mort toute la journée pour faire tes 2 km parce que tu es au bord d'une nationale, je comprends, en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que ça change de manière globale et que tout le monde fasse un peu son taf. Les politiques, il faut qu'ils nous mettent des pistes cyclables, qu'on nous aide à acheter des vélos facilement. Tu vois, qu'on nous donne tous les moyens pour pouvoir faire tout ça. Et en même temps, pour que ça arrive, bah, faut qu'on dise bah, regardez, nous on fait du vélo, les gars, donc mettez des pistes cyclables.
En fait, il faut que ça devienne quand même Amsterdam, quoi.
C'est trop bien, Amsterdam. J'y étais tout ce week-end. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient des accidents de voiture. Et ils ont dit on va arrêter les voitures. Tout le monde a dit lol. Bah, lol, voilà. Ils l'ont
fait. Est-ce que trier ses déchets, c'est un acte.
Ah, ça, c'est les ordres de grandeur, ça s'appelle. Je vous invite à regarder, c'est assez intéressant. Mais en gros, ça montre qu'il y a des actes qui sont perçus comme utiles et qui ne le sont presque pas. Trier ses déchets, un peu. Mais tu vois, c'est comme on te dit « Attention, mets pas trop de pièces jointes dans tes nails !» Tu vois. En fait, si tu changes ton iPhone un an plus tôt que ce que tu aurais pu faire parce que en fait, ton iPhone il était bien et que tu pouvais le garder un an de plus, c'est comme si tu avais envoyé 100 millions de mails. Donc en gros... C'est le sujet, c'est de ne pas changer ton iPhone, c'est pas de une fois ne pas mettre une pièce jointe, ne pas éteindre sa lampe, c'est ridicule parce qu'en fait, bien sûr, faites-le, mais si tu manges un seul steak de bœuf, c'est comme si ta lampe était restée allumée un an. Tu vois, ouais. Il y a tellement de trucs comme ça où tu te dis bon, et donc faut commencer par les trucs vraiment badass.
Mais justement, je croyais que le tri sélectif, etc. Hugo Clément avait fait un petit doc avec Bruce.
Alors ça dépend si on parle du CO2 ou pas, parce qu'il y a le plastique aussi qui est un énorme sujet.
Je sais plus, mais j'avais vu un petit doc avec Hugo Clément où il parlait justement du tri sélectif ou des fringues dans l'ébène, etc.
Ah,
où ça arrivait, enfin je sais plus. Et en fait, t'as l'impression que t'es pris pour un con parce que ça n'a pas trop d'impact et que ça atterrit dans les océans. Dans les
à Haïti, ça se déverse là-bas. Salut les gars, gérez ça. Mais en fait, ouais, non, le tri, c'est un premier pas qui est sympa, il faut le faire. Mais par contre, en vrai, c'est pas là que vous allez faire la diff au niveau du climat pour de vrai. Vraiment, vous le ferez à la fin quand vous êtes sur les finitions, tu vois. C'est comme si un mec qui fait de la muscu, il commençait par faire un truc pour vraiment travailler le faisceau latéral gauche de son omoplate, enfin de son épaule, quoi. Bah non, en gros, commence par faire un peu des pompes, des tractions, fais les gros trucs, quoi, tu vois, qui servent à quelque chose. Puis après, tu regarderas pour le faisceau latéral de l'épaule.
Mais tu vois, je pense pas typiquement aux avions où tu dis de plus prendre l'avion. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent pas l'avion parce que ça coûte cher, etc. Enfin, ça coûte cher, oui. Qu'il y a eu le Covid et qu'on est rentré aussi dans cette habitude de ne pas partir. Nous, ça fait des années qu'on n'a pas pris l'avion.
Bravo.
Pas par signe d'écologie, hein, mais juste parce que bah, on a eu un enfant et on est sorti du Covid, machin.
Il n'y a pas envie qu'il te vomisse dessus dans un avion devant tout le monde.
Aussi, effectivement, faire 12 heures d'avion, bof. Mais là où je te rejoins, moi, j'essaye maintenant de favoriser... là, j'ai fait un spectacle à Toulouse et on m'a proposé de prendre l'avion. Je fais bah non, je prendrai le train. Et pourtant, je sais que c'est plus long. Mais là, je me suis dit, bah là, j'ai pas envie de participer à ce truc-là. Mais par contre, tu vois, c'est là où ça peut devenir culpabilisant. Je dis pas que tu l'es, hein. Mais que nous, par exemple, non, je dis, tu l'es vraiment pas. un tout petit peu, c'est pas grave.
De toute façon, vous êtes tous des enculés.
Vous êtes tous des gros connards.
Vous êtes des pollueurs.
Mais par exemple, tu vas prendre l'avion si tu veux faire. Si ton rêve, c'est de partir au Japon ou alors que tu attends ton voyage depuis 2 ans pour aller au Japon, ok, on sait que ça va émettre une tonne, mais on devrait s'en priver, tu vois. Tu vois, elle est là, je trouve la difficulté, c'est du coup, on n'y va pas parce qu'on veut préserver aussi un petit peu et on ne veut pas émettre, enfin là. Et en même temps, bah, c'est se priver d'un bonheur et d'un plaisir, je trouve que c'est compliqué.
Je pense qu'il ne faut juste pas en abuser en fait. Parce que de toute façon, les avions seront toujours là. C'est juste être raisonné, à mon avis, sur la situation et essayer de te dire, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller en avion?
Non, mais dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi, mais parce que de dire dans ce cas-là, est-ce que j'en ai besoin, on peut parler de ça sur tous les sujets.
Ah, ben bien sûr.
Tu vois, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce sac? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là? Et après, là, tu deviens hyper écolo, ouais, tu deviens radin, tu deviens
animaliste
avec ton matelas.
Non, mais elle a tout à fait raison. C'est l'utilité d'un trajet d'abord. Parce que le mec qui part faire un an d'études à New York et qui prend l'avion pour aller faire son année d'études, bah ouais, mec, vas-y. Le mec qui va pour faire un week-end shopping chez Zara à New York parce qu'il se dit c'est plus sympa Zara à New York, bah non, peut-être vas-y pas, quoi. Mais tu vois, il y a aussi des trucs que moi j'ai déconstruit encore pour revenir sur le début, mais que je trouvais intéressant, c'est que typiquement, pourquoi on a tant besoin d'aller loin en avion, de se prendre une espèce de shoot là, de, tu vois, de bonheur, comme on l'appelle, à l'autre bout du monde, et que tous les panneaux des trucs d'avion, ils nous disent waouh, regarde cette magnifique plage de sable blanc et tout. Bah, c'est aussi parce que toute l'année, on attend, toute la journée on attend le soir, toute la semaine on attend le week-end, toute l'année on attend les vacances. On taffe comme des chiens tout le temps. On a tellement besoin d'un moment, d'une soupape de décompression qu'il faut qu'on parte tellement loin pour avoir l'impression de « ouais, j'ai vraiment profité de mes vacances, tu vois ». Mais la réalité, c'est comme si un mec, il mangeait que de la merde toute l'année et une semaine, il dit « je fais un jeûne, je mange rien pendant une semaine ». Ben non, mec, mange équilibré toute l'année, tu vois. Et en fait, nous, il faut qu'on réapprenne à vivre autrement et avoir d'autres modes de vie qui feront qu'en fait, on n'en aura rien à branler de partir le plus loin possible en avion, le plus…
Toi, tu voyages plus…
Si, de ouf, je fais que ça. Mais moi, je voyage par contre… que en train.
Ouais,
je prends mon temps.
Tu fais plus des voyages pour aller au Mexique, à Bali.
Non, mais en fait, je me rends compte que j'ai déjà tellement pas visité la France et l'Europe. Enfin, j'hallucine. Ouais. En fait, je me suis dit, mais.
Mais tu le fais pas dans de la privation. Tu le fais avec plaisir, en fait.
Ouais, moi, ça a commencé parce que je voulais skier beaucoup. J'adore le ski de fond notamment, et que j'avais une empreinte de port parce que j'étais à Lyon et
c'est
je faisais.
C'est bizarre, le ski de fond, il a quand même des goûts particuliers.
Mmh. Ouais, non, mais je suis un mec étrange. J'ai grandi dans le Jura. C'était soit tu meurs, soit tu fais du ski de fond.
De qualité, c'est pas grave.
J'avais pas le choix, moi, les gars. Et du coup. Je me rappelle que je me disais, putain, je dois faire des allers-retours plusieurs fois par semaine pour aller faire du ski depuis Lyon avec ma bagnole, si ça ne le fait pas. Comment je peux faire pour augmenter mon kiff de vie et en même temps être plus soutenable, tu vois, dans ma pratique? Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais habiter au ski pendant tout l'hiver, comme ça au moins c'est réglé. Donc je vais me prendre un chalet là-bas, je vais pas payer trop cher parce qu'en fait je vais faire une coloc éphémère avec d'autres entrepreneurs ou d'autres amis qui ont envie de faire ça avec moi. Et tous les jours, je vais ouvrir la porte et je serai au ski et je prends pas ma caisse. Et en fait, j'ai amélioré ma vie en baissant mon empreinte. Et j'ai commencé à faire ça, ce truc de coloc éphémère, et je me suis jamais arrêté. En fait, maintenant, je fais ça tout le temps.
Podcast. On va un peu conclure, les enfants, petit à petit, et je voulais vous parler justement des rôles des dirigeants politiques à travers le monde, parce que clairement, l'inaction politique renforce cette éco-anxiété et le sentiment d'abandon. Il y a quand même 55% des jeunes Français qui se sentent abandonnés par les dirigeants politiques. En novembre, s'est tenue la COP27 et on a l'impression que rien bouge, que rien ne bouge, que ça sert pas à grand-chose, et que toutes les personnes qui mettent des choses en place, ça ne sert à rien. Alors, est-ce que c'est une impression justifié et concrètement, est-ce que nous on peut faire bouger quelque chose pour qu'ils finissent par se saisir réellement de ce sujet-là?
C'est plus une question pour toi, ça. Hein.
Vas-y, réponds. Non, je sais que c'est pas facile de répondre à ça.
Là,
bah après, c'est vrai cool, que si tu donnes au moins ton opinion à chaud, tu vois, genre pour voir.
Mais je sais même pas en fait.
Non, mais est-ce que tu as l'impression que par exemple, le gouvernement, les politiciens, ils se sentent en lien avec l'écologie?
C'est un sujet dont on n'entend pas souvent parler quand même. Je trouve que c'est vrai que peut-être que si eux, ils nous mettaient un petit coup de boost, ça pourrait peut-être nous motiver, nous, à notre petite échelle, d'essayer de faire des petites choses au quotidien. Après, j'ai pas trop d'avis. Parce
comme
que
le très sélectif.
Exactement. Je vais commencer dès ce soir.
Oh, stylé, hein. Très
bien. Il faut bien commencer à prendre des décisions. Mais non, je sais pas. Non, je suis un peu neutre sur le sujet parce que, comme je vous ai dit au début, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'avais un recul un peu par rapport à tout ça, donc c'est vrai que je ne m'intéresse pas non plus à 100% sur ce qui peut ressortir quoi, au niveau de la politique aussi.
Moi, je déteste la politique. Vraiment, c'est un truc qui ne m'a jamais intéressée. Je me suis toujours sentie apolitique, un petit peu. Je vais voter par principe, et parfois je vote blanc d'ailleurs, même si ça ne sert à rien. Mais, ça ne sert à rien.
Ça sert malheureusement à rien, c'est pas compté, c'est horrible.
Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression, et pourtant je n'ai pas la télé, je n'écoute pas la radio, parce que j'ai fait le choix de ne pas avoir trop de négativité dans tout ça. J'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Et qu'il y a des petites choses qui sont mises en place, ou alors qui vont être mises en place. Mais j'ai l'impression que c'est le dernier...
Dernier des soucis.
Le dernier cadet de leurs soucis, le dernier souci de leur cadet.
Le dernier cadet de leurs soucis, je crois.
Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense qu'on dépend cruellement des choix qui sont faits en politique actuellement, qu'on s'en rend pas du tout compte, et que c'est aussi très bien pour les gens qui sont en politique qu'on s'en rende pas trop compte, parce que sinon on serait dans la rue avec des fourches, honnêtement. Il y a vraiment des choix qui sont pas du tout faits pour nous. Donc c'est important qu'on signifie qu'on a envie que certaines choses changent, mais surtout qu'on se documente et qu'on comprenne, parce que sinon on sera manipulé tout le temps.
Ouais.
Et je crois que c'est aussi difficile parce que on est toujours énervé contre nos politiques. Pourquoi on est toujours énervé contre nos politiques? C'est parce qu'on pense qu'ils vont nous apporter des solutions. Mais la réalité, c'est que c'est pas le rôle des politiques d'apporter des solutions. Eux, ils structurent les initiatives de la société civile. Bien sûr, ils font aussi parfois des trucs qui font changer les choses, mais c'est à la société civile de dire on veut ça en fait. Bougez vos culs, quoi.
Ouais, moi, c'est plutôt j'ai de la colère contre eux parce que j'ai l'impression qu'ils nous entendent pas.
Oui, mais on ne leur parle pas de manière audible. Tu vois, les Gilets jaunes, c'est un mouvement incroyable. Et à la fin, quand ils leur ont dit « Vous voulez quoi ?», personne ne s'est mis d'accord, quoi. Le truc est tombé comme un pétard mouillé, quoi. Parce qu'on n'est pas arrivé avec un truc en mode « On veut ça, en fait. Mettez-le !»
Je pense que il y a bien des gens qui sont allés voir le gouvernement pour dire...
Il y a eu quelques propositions, mais il y avait plusieurs représentants différents. C'était compliqué. Et en fait, faut que nous, citoyens aussi, on soit à la hauteur parce que sinon, on va se faire prendre pour des cons, quoi. Et il y a eu des initiatives géniales. Et je suis pas en train de dédonner les politiques, hein. Juste je fais un peu le tour des différentes pensées qui me sont passées dans la tête. Typiquement, la Convention citoyenne pour le climat, c'est trop bien. C'est 100 citoyens qui ont été formés au sujet du climat, comme si là, moi, je vous avais cassé les couilles, mais pendant des jours et des jours, imagine le délire. Et du coup, à la fin, c'était devenu des mecs bien convaincus sur les sujets. Et on leur a dit, faites 100 propositions concrètes qu'on fera appliquer instantanément. Et Macron, il avait dit... Je les appliquerai toutes, direct, sans rechiner. Ils ont fait un taf de ouf, ils ont proposé 100 trucs géniaux, et le mec a dit, bon, en fait, non, j'en prends que 4.
Ah ouais?
Ouais, et tu vois, donc bien sûr que des fois, ils se foutent vraiment de notre gueule, mais si on disait, t'es un ouf, mon gars, tu les prends les 100, on sort dans la rue et on dit, tu les prends les 100, je pense qu'on pourrait réussir à faire en sorte qu'ils les prennent. Mais bon, voilà, c'est pas gagné encore.
Ouais, mais il y a quand même énormément de gens qui manifestent, tu vois, pour se faire entendre, et j'ai l'impression
très peu.
Très très peu.
Ah, les manifestations climat, c'est risible, climat. Malheureusement. C'est quelques dizaines de milliers de gars, hein, et de femmes.
Et ils ne sont pas entendus?
Non.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit entendu?
C'est pour ça qu'il y a des mecs qui s'allongent sur l'autoroute. Non, en réalité, on en est là. Hein.
Ouais.
Mais, il y a des...
C'est hyper triste. Parce que, quand même, je veux dire, que tu sois écolo ou que tu sois pas écolo, il s'agit quand même du futur, tu vois, de l'avenir, de tout ça. Et qu'il soit dans un truc où c'est vraiment pas un sujet pour... Enfin, c'est un sujet, mais un peu dans les bas-fonds, quoi. On y va pas trop. Je trouve que c'est d'une tristesse affolante, quoi, tu vois.
C'est pas...
les parents de chaque pays, je trouve, c'est à eux de montrer l'exemple aussi. C'est les représentants... Les gens, il y a beaucoup de gens quand même qui idéalisent aussi, même si maintenant, aujourd'hui, on est à un stade où la politique, ça nous dépasse, clairement, je suis un peu comme toi. Mais je trouve que c'est à eux de montrer les choses aussi. Enfin, c'est... Il faut...
Mais s'ils ne sont pas dans un monde où ils ont intérêt, ils ne vont pas le faire. Et si nous, on ne s'y intéresse pas, ils vont encore moins le faire, tu vois. Mmh. C'est pour ça que c'est chaud, parce que c'est autant à nous de faire cet effort qu'à eux de dire « Bah ouais, on est censé piloter ce pays pour que les gens y soient bien, quoi. » Pas pour qu'ils aient la misère demain, quoi.
Aussi, ouais.
Mais bon, c'est des sujets tellement vastes et complexes que on va pas se lancer. Mais en tout cas, voilà.
Ça va durer longtemps.
Exactement.
Podcast. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a vraiment tellement de sujets qu'on n'a pas abordés, qu'on aurait pu aborder, qu'on abordera peut-être dans la saison 2. Moi, j'ai quand même envie de poser une question à Jeanne. Jeanne, comment vas-tu? Est-ce que il y a
je
des...
suis vidée.
Non, mais c'est vrai, tu vois, on se prend plein d'infos.
C'est ça. C'est tellement d'infos d'un coup, mais d'infos hyper intéressantes et hyper constructives. Mais ça fait beaucoup d'infos d'un coup.
Désolé.
Mais non, mais en vrai, merci.
On sait pas
avoir
tout ça, moi.
Mais non, mais merci pour toutes ces informations, parce que concrètement, ça me fait réaliser des choses aussi que je réalisais il y a encore peut-être 2 heures. Donc,
Il y a des choses que tu as envie de mettre en place, que tu n'as pas envie de mettre en place, que tu as envie de changer un peu dans ton mode de vie.
Il faut que j'essaye de réduire, dans un premier temps, c'est ma consommation de vêtements. La viande, c'est déjà fait.
Tu consommes beaucoup de vêtements?
Ouais, je suis un peu dans cette...
Et pourquoi tu fais pas du seconde main, justement, toi?
Je fais aussi.
Ça va, le seconde main, c'est déjà bien moins pire.
Un peu.
Okay.
Mais le souci, en fait, quand j'essaye d'acheter de la seconde main, c'est qu'en général, c'est des pièces de meilleure qualité. et même en étant de seconde main, ça reste forcément plus cher. Donc c'est vrai que moi, vu que je suis un petit peu impulsive, que j'aime bien avoir les choses un petit peu rapidement.
Ouais, je vois.
J'ai acheté même à côté de chez moi, je vais y aller, quoi.
Ouais. Mais tu vois, moi, je me dis
même
souvent...
Même si je pourrais aller ailleurs.
Est-ce qu'on préférerait pas, finalement, faire le petit calcul rapide de se dire, est-ce que je préfère acheter 10 t-shirts à 10 euros qui vont durer un an,
mais c'est sûr.
Ou un t-shirt à 50 euros qui va durer 10 ans.
Et je pense aussi.
Et au final, tu vois, pareil, quand tu fais le petit calcul, tu te dis, c'est pas si
cool. Ou alors consommer local, fringues.
Mais par contre, on a envie de changer souvent de fringues et tout. Mais
c'est
maintenant,
ça, ouais.
Mais maintenant, il y a des trucs stylés qui arrivent, genre tu loues tes vêtements. Genre tu dis, je les prends une semaine, et après je change tout le temps, mais du coup, mon impact est faible.
Juste, je me permets de vous couper, mais par exemple, d'acheter français, ça coûte beaucoup plus cher.
Ben, pour l'instant, ouais.
Franchement, moi, je commande. Enfin, j'ai travaillé et je travaille avec ces marques-là, mais j'ai déjà acheté chez Almé ou chez Make My Lemonade. Moi, j'adore ces marques, hein. Mais ça coûte rush, quoi. Tu vois, je sais pas, genre une robe, ça va coûter 100 euros, quoi. Enfin, c'est cher. Alors que tu vas chez H&M, ça te coûte 20 balles, quoi.
Moyens, c'est sûr.
Mais au moins, voilà. Moi, j'ai une pote qui achète que ses culottes chez Mes Jolies Culottes ou je sais pas quoi, et c'est que des trucs français. Je suis peut-être pas seule.
Le truc de Louise, non, rien à voir.
Non, c'est pas ça. Tu vois, voilà. Il y a. Mais c'est difficile parce que c'est un mode.
Dans le principe, il faudrait privilégier qualitatif à quantitatif. Mais c'est vrai qu'on est dans cette optique. Même avec les réseaux sociaux, on voit tout le temps des nouveaux trucs. On se dit, ah ouais, ça c'est pas mal. Peut-être que je pourrais le trouver.
Moi, je suis plus comme ça maintenant. Pour moi, je suis comme ça pour mon fils. Mais par contre, je lui achète plein de vêtements. Il s'en bat les couilles. Hein. Vraiment. Ils sont fous, quoi. Il n'a que 18 mois finalement. Donc vraiment, il s'en fout. Mais par contre, j'essaye un petit peu d'acheter. Non, mais c'est pas vrai. Je vous mytho. C'est pas vrai. Petit bateau. C'est pas. Je crois que petit bateau, c'est pas incroyable.
Je crois que c'est pas si fou,
petit bateau.
Je connais pas. Là,
Et bon, bref, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a ce truc de la mode. Moi, je crois que je suis partie de cette idée de la mode de « Ah tiens, ça, c'est hyper tendance, je vais l'acheter.
Ouais. »
Mais parce que tu vois, justement, après, on va vraiment clôturer. Mais justement, la notion de la mode, je l'ai réalisée là en faisant une interview pour un média où, en fait, je disais pour moi, maintenant, je mets plus autant d'importance dans la fringue qu'avant. Mmh. Avant, j'y mettais vachement d'importance parce qu'il y avait une notion de la valeur pour moi. Mmh. Tu vois, j'ai envie de montrer ça aux gens, l'apparence que je vais donner, c'est ça. Alors que maintenant, j'ai envie de me sentir confortable et puis c'est ça qui prime. Et donc, si, genre, ça, c'est très confortable, c'est joli en même temps. C'est un truc que j'ai de Asos, mais que j'ai depuis 8 ans. Tu vois,
c'est une mauvaise qualité.
C'est
Asos, quoi.
Mais je l'ai depuis longtemps. Et donc, je pense que d'être aussi dans une réflexion de « Ok, en fait, les tendances, elles bougent tout le temps.
Ouais. »
Et donc, en fait, cette mode de, je sais pas, du crop top, je vais dire n'importe quoi, ça va durer 2 mois. Donc, je vais dépenser 90 balles dans 5 crop top, mais dans 2-3 mois, ce sera fini. Tu vois, c'est des réflexions.
Ouais, non, mais c'est sûr, il faut réussir à raisonner comme ça.
Mais c'est pas évident.
Ouais. C'est un travail sur soi à faire, de toute façon. Mais comme sur tout, de toute façon.
Mais je suis contente que ça t'ait ouvert les yeux sur certains trucs. Et moi aussi. Donc, je te remercie.
Ravi, parce que moi aussi, en vrai de vrai, j'ai vachement mieux compris certaines... parce que moi, je suis trop souvent avec les gens du game écologie. Et malheureusement, parce qu'avant, je l'étais très peu. Mais plus tu y es.
Ouais.
Et j'oublie parfois que les gens sont des gens bien. Ils essayent juste de vivre leur vie du mieux qu'ils peuvent. Et c'est pas qu'ils veulent pas et qu'ils veulent que la terre brûle. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément bien compris des trucs, quoi. Voilà, normal.
Ouais.
Et puis comme ce qu'on disait tout à l'heure... On pense d'abord à soi, souvent, avant de penser à l'autre. Et c'est pas forcément négatif. Mais c'est juste, du coup, penser à soi... Il y a plein de manières de penser à soi. Comme ta manière à toi et comme la tienne.
Mmh.
Et il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Bon, il y a la mienne, bien sûr. Mais mais globalement, tout ça ne sont que des choix égoïstes et il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas que des choix égoïstes. Bon, vous m'avez compris.
Mais l'égoïsme, c'est l'altruisme. C'est ça le pire.
C'est ça.
Plus tu penses à toi et tu t'occupes de toi... Plus tu es quelqu'un qui va faire du bien aux autres et tu vas aider les autres parce que tu seras équilibré, tu seras heureux. Donc, alors ça dépend de quel type d'égoïsme, mais voilà, dans le celui dont on parle, je pense que c'est pas grave, hein, y a pas de problème.
Ouais. C'est la fin de ce live, les amis. Merci à tous pour votre participation. Merci Arthur et merci Jeanne. Vous avez été très animés par ce sujet et je trouve ça génial qu'on puisse parler de tout ça hyper librement. Merci d'être venus partager vos points de vue sur ce sujet à tous les deux. On pourrait discuter encore 2 heures de plus là-dessus sans problème, mais bon, faut bien que ce live se termine un jour, n'est-ce pas ? N'oubliez pas n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Vous pouvez également me suivre sur Insta et sur Twitch, bien sûr, sur YouTube et sur OnlyFans. C'est faux, j'ai pas de OnlyFans, les copains.
Mime, rendez-vous sur Mime.
Rendez-vous sur Mime, j'ai pas de Mime, les copains. Comme ça, lorsque le prochain hors-série fera son retour, vous serez les premiers au courant, et ça, c'est cool. Encore merci, vraiment, bonne soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même studio, même micro, pour le dernier épisode de la saison, dans lequel je recevrai mon mec, où nous allons parler tromperie dans le couple. Allez, je vous embrasse, gros bisous, ciao. Salut.
Merci et au revoir. Et
merci.
Merci pour l'invitation. Voilà.
Merci. Podcast.